Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
What time is it now?
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. He left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown.
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 Hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 256 du podcast J'en Actu en direct sur YouTube et en simultané en direct et tout ça et tout ça. J'allais dire et en podcast un peu plus tard. L'épisode 356, donc un épisode très spécial puisque nous sommes en direct, mais surtout nous sommes très nombreux. Je vais les accueillir les uns après les autres. Grégory Richard, tout d'abord le chef de la meute draft. Bonjour Grégory.
Salut Alain et bonjour à tous.
Jean-Michel Boujard. Jean-Michel, bonjour.
Bonjour l'équipe, bonjour tout le monde.
Mehdi Julien est avec nous. Bonjour Mehdi.
Et bonjour tout le monde.
Et Victor Roulier, que vous aviez aperçu, je crois que c'était lors du live Thanksgiving. Bonjour Victor.
Bonjour à tous. Oui, en effet, c'était pour Thanksgiving.
Alors, et oui, je m'en rappelle bien, tu étais dans le canapé, c'était à l'époque où on pouvait être ensemble tous et pas sur Zoom comme on est là, puisqu'on est pas seulement 5, mais 6. Camille Saraben, ici Cognac G. Bonjour la technique.
Salut, salut.
La technique est donc avec nous pour nous permettre d'être à la fois sur Zoom, d'être tous ensemble et d'être en direct avec vous. Nous sommes donc sur YouTube, mais alors nous sommes très nombreux déjà. Il y a déjà plus d'une centaine de personnes qui a débarqué. Xavier, Titouan, Thomas, Damien, Seb Blatter, PCM. Voilà, je jette un œil. Si vous me voyez tourner la tête vers la droite, c'est que je regarde l'écran où il y a le chat. Il y en a plusieurs. C'est un gros setup. C'est de la grosse technique maintenant, messieurs. Live spécial. Donc pour cette veille de draft, nous vous offrons un direct. Les quatre hommes que je viens de vous présenter et qui viennent de vous saluer vont choisir chacun leur tour en direct et ils vont devoir s'adapter évidemment à ce qui va se passer en permanence devant eux. Le principe, il est simple, ils choisissent, on a fait par ordre alphabétique, chacun leur tour. C'est-à-dire, Grégory choisit en 1 pour Cincinnati, Jean-Michel en 2 pour Washington, Mehdi en 3 pour Détroit, Victor en 4 pour les Giants et on reprend ensuite avec Grégory pour Miami, Jean-Michel pour les Chargers et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous avons une configuration où je vais jouer le rôle de Roger Goodell puisque ce sont eux qui sont compétents pour parler de draft et des prospects. Moi, je suis juste là pour annoncer les noms, messieurs. Nous avons un dispositif. Est-ce qu'on a le chrono, du coup, Camille ?
Oui, on l'a, je l'ai fait.
On a, alors voilà, on a même, voilà, j'ai le retour en direct, on a même un chrono de 2 minutes qui va s'afficher. Alors, on n'a pas fait 10 minutes parce qu'ils sont encore plus affûtés que des GM, évidemment, ils ont besoin que de 2 minutes pour choisir leur prospect préféré. Donc, une fois qu'ils ont fait leur choix, ils me l'envoient par message privé, je vous donne les coulisses. Je l'annonce et ils auront derrière quelques instants pour donner leur choix pendant que le suivant fait ses choix également. Je jette un petit œil et je dis bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. De Nias, Sylvain, je vais devoir mettre mes lunettes pour regarder l'écran de droite parce que c'est dur, Gus, Clément, Alexandre, Sylvain, Pierre, etc., Thomas, et on est déjà à 190, ça monte petit à petit. Ça fait du bien de vous retrouver en direct, moi c'est depuis le fauteuil que je ne vous ai pas vu en direct et vous savez que j'adore les directs. Messieurs, eh ben écoutez, on l'a dit, le décor est posé, on leur a dit que sur le chat ils pouvaient réagir, on a tous nos petits équipements, tout le monde s'entend bien, ça va? Grégory, on va refaire un petit test. Grégory, tu es avec nous?
Mais écoute, oui, Paris-Bordeaux-Le Mans.
Paris-Bordeaux-Le Mans, voilà, c'est notre test. Jean-Michel, tu es avec nous.
Parfait.
Victor, je remonte dans l'ordre du...
Oui, tout à fait, c'est bon.
Et Mehdi, en haut à gauche, moi, de mon écran et de mon retour.
Ouais, let's go Patriots.
Voilà, ah ouais, mais Mehdi est en deuil, il a perdu ses deux plus grandes
stars. Let's go Max.
Vous avez vu d'ailleurs qu'on a un maillot de Tom Brady derrière qui est là pour
ah, j'ai le mien aussi.
Au temps passé à New England. Tout ça, c'est fini, bien sûr. Le décor est posé, la tension monte, messieurs. Nous allons donc commencer cette mock draft 2020. Camille, est-ce qu'on peut démarrer l'horloge? Ah oui, alors c'est ça. Moi, il va falloir que je regarde.
C'est démarré.
C'est démarré, voilà. J'ai un tout petit peu de retard sur le retour YouTube parce que j'ai pas l'horloge dans le retour de notre conversation, évidemment. On s'adapte, on vous le dit, c'est une manière aussi pour nous de tester notre configuration pour la draft de demain. Ça nous permet de faire un direct où on voit un petit peu comment ça marche. Donc, le choix en cours, Cincinnati Bengals, l'horloge est lancée. Grégory, tu es sur l'horloge, donc tu m'envoies ton choix en message privé. Quand il est fait, pendant ce temps-là, nous allons discuter avec les autres. Ah bah, oh, c'est allé tellement vite. Le premier choix de la draft est arrivé. Bon, ben, on va même pas commencer à débattre de ça avec les autres. Avec le premier choix de la draft 2020, les Cincinnati Bengals de Grégory Richard, leur nouveau general manager, choisissent Joe Burrow, quarterback de LSU. Grégory, je te laisse défendre ton choix. Ça me semble évident. C'est le meilleur quarterback de cette draft?
Oui, c'est le meilleur quarterback sur le papier de cette draft, très clairement. Je vais le dire rapidement, c'est sûr que c'est pas le principal besoin, à mon sens, des Bengals. Il y en a quand même beaucoup, notamment sur la ligne offensive au poste de linebacker. Ça, on aura le temps d'y revenir avec les tours suivants dans les prochains jours. Mais c'est vrai que cette question du quarterback, même si Andy Dalton a rarement fait tâche durant sa période du côté de Cincinnati, il y a peut-être la volonté du côté... du front office des Bengals et de Zach Taylor d'influer une nouvelle énergie notamment sur ce poste de carrière avec un quarterback beaucoup plus mobile, beaucoup plus intelligent notamment, une excellente capacité d'improvisation et puis une capacité à jouer verticalement ce qui est aussi le leitmotiv de Zach Taylor hein, qui a été formé notamment par Sean McVay chez les Rams. Donc voilà, tous ces éléments-là qui peuvent permettre notamment à AJ Green de se sortir de nouveau chez lui dans l'Ohio. Et puis parlant de se sentir à nouveau chez lui dans l'Ohio, on rappelle que Joe Burrow, c'est quand même un natif de cet état, et le fait de revenir donc chez lui sur ses terres du côté de Cincinnati, ça peut être un double challenge à la fois donc pour les Bengals et à la fois pour le quarterback.
En un mot, oui ou non, c'est Joe Burrow le meilleur quarterback de cette draft? Vous l'auriez pris aussi avec ce premier choix?
Oui, c'est logique.
Oui.
Oui pour tout le monde, parce que ça va très vite. J'ai déjà reçu le deuxième choix. J'ai même pas eu le temps de mettre les Washington Redskins sur l'horloge que le deuxième choix est déjà arrivé. C'est Jean-Michel qui avait le choix numéro 2 pour les Redskins. Alors je vais l'annoncer tout de suite et puis on passera en revue les besoins quand même de Washington en même temps. Le deuxième choix de la draft 2020 des Washington Redskins de Jean-Michel, c'est Chase Young. Chase Young, donc le pass rusher en provenance d'Ohio State. Ils avaient d'autres besoins. Ils auraient pu aussi aller sur la ligne offensive. Ils auraient pu faire d'autres choses, hein, les Redskins, les postes de receveur, cornerback. Tout ça, c'est des besoins du côté de Washington. Chase Young, alors qu'ils ont déjà des éléments en défense, Jean-Michel, il est trop fort pour passer à côté?
Voilà, c'est exactement ça, Alain. Exactement. Parce que si on prend le besoin numéro un, c'est sûr, c'est offensive tackle. Avec Trent Williams qui ne veut plus jouer, à droite il n'y a plus personne, donc et en plus il y a des très bons offensive tackles cette année. Mais Chase Young, quoi, voilà, on va pas faire une heure dessus, il est athlétique, il est puissant, il est rapide. Et puis en plus il faut pas oublier l'effet 49ers qui sont allés au Super Bowl, on l'a vu, tous les ans ils ont pris des hommes de ligne, et puis ils ont ajouté la touche finale, Nick Bosa. Là, quand on considère les Redskins avec déjà Jonathan Allen, Daron Payne, Kerrigan, Montez Sweat, tu rajoutes Chase Young là-dessus, et sur le papier en tout cas, tu as une ligne défensive dominante, et ça peut faire toute la différence.
Tout le monde est d'accord avec Chase Young. Victor, que tu peux réagir, tu n'es pas encore sur l'horloge, c'est Mehdi qui est sur l'horloge. Chase Young, immanquable aussi en numéro 2 pour toi?
Oui, oui, c'est, je pense que dans la plupart des big boards, c'est le joueur numéro 1. En effet, le premier choix, c'est logique que ça soit Joe Burrow parce que c'est un quarterback, mais si on parle de potentiel, le numéro 1, c'est Chase Young. Il est très fort, il est le successeur de Nick Bosa à Ohio State. On espère pour lui qu'il aura le même début de carrière. Donc, c'est un choix logique. Et les Redskins, sur le papier, ont une des cinq meilleures lignes défensives de la Ligue.
Alors, les Detroit Lions sont sur l'horloge. C'est au tour de Mehdi de choisir. Yes. Camille, je ne sais pas si tu as eu le temps de démarrer l'horloge pour les Lions parce que j'ai déjà le choix. Alors, ça va très, très vite aussi. Je vais l'annoncer tout de suite. Le troisième choix, ça va très, très vite hein, pour l'instant, messieurs. On est parti sur des bases très, 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 très élevées. Le choix donc numéro 3 de la draft 2020 par les Detroit Lions de Mehdi Julien, c'est Isaiah Simmons, linebacker en numéro 3. Je vois les sourcils de Grégory qui se sont levé dans sa fenêtre. Je vois Jean-Michel qui est étonné. Je vois Victor qui se triture la lèvre du bas de manière très interrogative. Mehdi, comment tu justifies ce choix d'Isaiah Simmons qu'ils ont l'air de trouver un peu haut?
En fait, j'ai énormément hésité avec Okuda. Au départ, c'était parti sur Okuda. Et je trouve que après Chase Young, Simmons, c'est vraiment le défenseur qui a le plus de potentiel. Ils ont tellement de besoins en défense et c'est un joueur hybride que je pense qu'il peut cocher des cases à l'intérieur de la défense des Lions. Après, à voir si Patricien retrouve le mojo qu'il avait avec les Patriots, d'utiliser des safety linebackers un peu hybrides et pour l'utiliser au mieux dans sa défense des Lions. Je ne pense pas qu'un cornerback soit la priorité actuelle, la plus grosse priorité pour les Lions.
Grégory, pas de Jeffrey Okuda alors. Est-ce que tu es d'accord?
Pas totalement en l'occurrence. Alors, je dis pas que c'est incohérent parce que bon, un joueur comme Isaiah Simmons, c'est quand même un phénomène suffisamment rare pour susciter en tout cas l'intérêt de beaucoup de franchises et de l'incorporer dans une défense. Il y a ce côté en effet hybride linebacker safety qui est assez intéressant et Mike Patricia aime bien en effet des profils assez polyvalents. Maintenant, c'est vrai que le poste de linebacker a l'air d'avoir été assez considéré. Il y a déjà Jimmy Collins qui est arrivé avec Tavai et Davis, donc c'est vrai que bon, ça ferait un peu peut-être embouteillage à moins que Jimmy Collins soit un petit peu avancer sur la ligne, mais pourquoi pas, encore une fois, hein, c'est pas forcément quelque chose de farfelu en soi. Surtout pour le coup, Jarrad Davis est free agent l'année prochaine, donc on peut peut-être l'incorporer au milieu du deuxième rideau, je sais pas trop, mais bon, c'est pas la direction que j'aurais prise. Mais Okuda, ou moi je suis un grand fan de Derrick Brown, comme on le sait, donc mais pense qu'un choix défensif c'est cohérent.
Alors, déjà, Mehdi, tu peux te dire que Alexandre sur le choix est entièrement d'accord avec toi. Simmons est super. Je réponds aussi à une question de Manning. Manning, je ne sais plus. Je l'ai vu passer Manning 18. Est-ce qu'on fait juste le premier tour? Oui, pour l'instant, on va se limiter au premier tour. Ça fait déjà quand même pas mal de prépa. Il faut se rappeler que ces quatre messieurs ont travaillé leur board et ils ne savent pas ce que les autres vont choisir. Donc là, on est dans l'adaptation en temps réel. Il faut pas mal de choses et on ne fait pas d'échange en direct. C'est un peu compliqué quand même à monter, avec à négocier derrière, etc. Un petit bonjour à Marco Verratti, quand même un habitué des fauteuils. Alors, il nous regardait les dimanches quand il jouait pas avec le PSG. Là, il nous regarde évidemment puisqu'il joue pas non plus. Hein, qui nous dit qu'il a jamais fumé autant de chicha en cette période de confinement et que la reprise sera dure. Alors, peut-être qu'il est confiné avec Serge Aurier, on ne sait pas. Messieurs, on va donc passer au quatrième choix des New York Giants sélectionné par Victor. Pendant que je vais annoncer le choix de Victor, Camille, je te laisse mettre les Miami Dolphins de Grégory Richard sur l'horloge et je vais ajouter le choix de Victor. Excusez-moi, c'est moi qui dois être en train de faire ça. Et donc Victor a choisi pour les New York Giants en quatrième position le tackle Tristan Wirfs. Victor en numéro 4, on va donc sur la ligne offensive pour aider Daniel Jones et Saquon Barkley.
Exactement. Au moment de la free agency, les Giants se sont beaucoup préoccupés de la défense. Là, il est temps de protéger Daniel Jones. Ce dont les Giants ont besoin, c'est d'un tackle qui sait jouer à droite pour le moment, parce que Ned Solder est là, même si certains peuvent considérer qu'il est trop payé, il est là à gauche. Et un tackle qui potentiellement pourrait glisser à gauche une fois que Solder partirait. On a un joueur polyvalent, un joueur au physique impressionnant. Pour moi, c'est le tackle le plus NFL ready. Et on va dire que il fait, je crois que Grégory l'avait mentionné dans le podcast, c'est l'école Kirk Ferentz. Donc on va dire que c'est une école très rassurante. On se dit qu'un lineman qui sort de cette école-là doit pouvoir faire une transition vers la NFL.
Mehdi, tackle offensif pour les Giants. Est-ce que tu es d'accord avec Victor?
Logique. Franchement, c'est le meilleur tackle. Et après, ils ont énormément de besoins, les Giants. Mais je pense qu'un tackle aussi dominant, déjà à son âge, je pense que c'est logique.
Bon, on est sur du consensus. Jean-Michel, est-ce que tu partages le consensus sur Tristan Wirfs?
Presque. En fait, je trouve que c'est un très bon choix, le tackle offensif, mais c'est vrai que moi, j'aurais pris plutôt Jedrick Wills. Mais après, c'est un bon choix aussi, Tristan Wirfs.
Alors, Wirfs, l'autre, tu l'as dit, pardon.
L'autre, c'est Wills d'Alabama, ouais.
Voilà, ça sonne un peu pareil. Et ouais. Parce qu'il y a Andrew Thomas qui était réclamé aussi sur le chat. Il y a Raphaël Masmejean qui nous regarde et qu'on salue évidemment des autres émissions, qui nous demande s'il a des mains violentes, Tristan Wirfs. Victor, est-ce qu'il a des mains violentes, ton protégé?
Oui.
Oui. Bon. Oui. Allez, on va enchaîner parce que les choix s'enchaînent. Vous êtes d'une rapidité, d'une efficacité redoutable avec le cinquième choix de la draft 2020. Grégory Richard, manager désormais des Miami Dolphins, parce que tout va très vite, a sélectionné Justin Herbert devant Tua Tagovailoa.
Oh.
Stupeur et tremblement.
Écoute, des raisons purement médicales, si je peux parler ainsi. Alors, il y a beaucoup de reports hein, qui sortent. Alors, c'est... On peut prendre ça avec des pincettes sur le fait que Miami est plus enclin à prendre le joueur des Ducks que Tagovailoa. On reste dans une année extrêmement particulière avec le fait que les tests physiques n'ont pas forcément pu être réalisés pleinement, on dira, par les franchises. Et c'est vrai que il y a beaucoup de blessures que traîne toi Tagovailoa, hormis bien entendu sa grave blessure à la hanche contractée face à Mississippi State. Il y a peut-être beaucoup de zones d'ombre, même si c'est pour faire une année en off derrière Ryan Fitzpatrick. Est-ce que Brian Flores et son general manager trouvent pas ça trop risqué de miser sur un joueur qui n'apportera peut-être pas des garanties physiques sur la durée? C'est ce qui m'amène à me dire que Justin Herbert, c'est peut-être le, on dira, un rapport qualité-prix plus intéressant que Tagovailoa pour Miami.
Bon, c'est plutôt partagé sur le chat. Sébastien qui nous dit que, Julien qui dit que c'est le choix le plus rationnel. D'accord ou pas avec ce choix rationnel, donc Victor?
Oui, je pense que j'aurais fait le même, même si tu as sur le papier certainement un joueur avec beaucoup plus de potentiel. Ça, je pense que c'est assez évident. Mais vraiment, là, on est sur des red flags médicaux qui sont vraiment très importants. Et comme l'a très bien dit Grégory, on est dans une période où l'incertitude règne. Prendre Herbert, c'est en effet le choix le plus rationnel. Et ça reste un très, très bon quarterback.
Choix numéro 6, messieurs, de cette draft 2020, les Los Angeles Chargers, dirigés par Jean-Michel. On choisit un quarterback également, puisque c'est le fameux Tua Tagovailoa. Qui est choisi donc Los Angeles plutôt que Miami? On l'a beaucoup annoncé à Miami ces dernières semaines. Le voilà donc du côté de la Californie. Alors, Jean-Michel, il a des problèmes de blessure, mais pas suffisamment visiblement pour que tu aies peur de le prendre en sixième position à Los Angeles.
Non, c'est un tel talent, un tel talent. Après, c'est sûr, évidemment, la blessure, et on parle surtout de la hanche, parce que les blessures à la cheville qu'il a pu subir à l'université, ça, tous les quarterbacks, non, ça arrive régulièrement. Mais c'est un tel talent, et ne serait-ce qu'une année pour vraiment récupérer et ensuite et puis s'ajuster aussi à la vitesse de la NFL. Mais ensuite, c'est un potentiel quarterback de top 10, quoi, je veux dire. En plus, Los Angeles, le manager Tom Telesco a beau dire non, moi je veux prendre des joueurs pour gagner et pas faire du bling bling parce que c'est LA, mais tout de même, quoi. Il y a deux équipes à Los Angeles, c'est un petit peu nouveau le football là-bas, il y a 20 000 choses à faire à Los Angeles, faut bien attirer les gens. Tu as ta gueule, voilà. Je le vois de suite sur les affiches en ville. Enfin, et évidemment, niveau sportif, il a vraiment beaucoup prouvé. Moi, j'y crois.
Il faut un visage donc, de la franchise. Grégory, toi qui
je
viens
pense,
de...
oui. Oui.
Grégory, toi qui viens de passer sur Tua Tagovailoa et qui vient de l'humilier, donc il te le rappellera à chaque fois que tu l'affronteras désormais en tant que général. Est-ce que tu regrettes déjà d'avoir choisi Justin Herbert ou alors est-ce que tu es d'accord et qu'il serait un beau visage de la franchise à Los Angeles?
Ah oui, non, mais moi je rejoins parfaitement ce qu'a dit Jean-Michel. C'est vrai que très clairement, voilà, c'est un joueur qui en effet a un énorme potentiel et qui peut devenir, bien entendu, à terme un franchise quarterback. Mais ouais, c'est vrai que beaucoup de red flags. Ce sera encore plus risqué, je pense, pour les Chargers de miser sur lui que pour Miami, sachant la situation d'Anthony Lynn. Mais les Chargers auraient tort de pas sauter sur l'occasion en l'occurrence, vu qu'offensivement il y a pas mal de reconstruction et Tagovailoa peut permettre, en espérant qu'il revienne relativement rapidement, de contribuer à cela.
Bon, alors Grégory, tu es condamné par Christophe qui dit se priver d'un talent comme tu as, c'est criminel. on sent le sabordage par un fan des Raiders, dit Swiss Chargers. Ah oui, c'est vrai que Jean-Michel, tu as une veste des Raiders. Là,
donc ah oui, c'est vrai, oui. Il se cache pas en plus.
Immédiatement. Il y a beaucoup, beaucoup de commentaires. Je vous remercie hein, sur le chat. On est 300, il y a 325 personnes hein, en direct en train de vous regarder, messieurs. Pas de pression. Donc, encore un quarterback pour les Panthers, dit Delta MG. Je fais un petit tour, un petit peu. J'essaie de regarder ce qui se passe sur le chat en même temps. En tout cas, du côté des Chargers, on n'est pas super content. Je crois que c'est A Swiss Chargers qui a mis un O avec plein de O. Je fais un petit point de chat hein, de temps en temps. Ça, ne pas prendre Tua, c'est pas la panacée, dit Flo07. Herbert est surcoté selon Malcolm. Est-ce que Herbert est prêt pour jouer jour 1, dit Pierre. Je renvoie donc à ce qui a été dit un peu plus tôt. Voilà, n'hésitez pas à continuer, mettez vos questions. Je me fais le relais petit à petit. On va faire des petits points entre tout ça. L'horloge est terminée pour les Carolina Panthers de Mehdi Julien. Mehdi a donc choisi pour les Panthers avec le 7e choix de la draft 2020 le defensive tackle Derek Brown. Je crois que c'est... Ben non, c'est une draft très défensive. Tu es le seul à choisir... Non, il y a eu Chase Young avant, pardon. Mais en tout cas, ça fait deux joueurs défensifs.
Et Simmons aussi.
Et Simmons, pardon. Donc, ça fait ton deuxième choix défensif, Mehdi. On sent l'influence Patriots. Les Panthers, on met du muscle au centre de la ligne avec Derek Brown.
Bah, y a tellement de besoins partout dans l'équipe des Panthers, mais je pense que les franchises se construisent par les lignes. Et Derek Brown, ça va prendre un peu la succession de la génération Starlut Sulele, Kawan Short, qui sont allés jusqu'au Super Bowl avec les Panthers. Et c'est vraiment un tel talent. C'est le meilleur defensive tackle. Il n'y a pas d'autres questions à se poser sur lui. Franchement, il est tellement dominant. Et il va peut-être être le pendant, on va dire, de Christian McCaffrey en défense.
Ah ouais.
Le Kukli n'est pas là.
Jean-Michel, toi qu'on n'a pas encore entendu sur Derek Brown, le pendant de Christian McCaffrey en défense, le visage de cette franchise en défense du coup après. Est-ce que tu m'entends, Jean-Michel?
Ah c'était non, je t'avais pas entendu. Excuse-moi.
Voilà. Il est okay. À l'arrêt.
Désolé.
Est-ce que tu es d'accord avec Mehdi en disant que Derek Brown pourrait être à la défense des Panthers, que Christian McCaffrey est à l'attaque?
Oui, c'est vrai que la formule m'a un peu surpris, mais pourquoi pas, oui, c'est un super joueur. Et puis, en plus, aux Panthers, c'est vraiment un gros besoin. Je veux dire, devant, il n'y a plus personne. Ils ont perdu Gerald McCoy, ils ont perdu... Butler, c'était pas forcément la panacée, comme on dit. Mais oui, Derek Brown, il va stopper la course. Et c'était un gros souci l'année dernière déjà pour les Panthers. Et il est capable également d'aller attraper le quarterback. Et puis même s'il attrape pas lui, le quarterback... Il va tellement enfoncer la poche que par l'extérieur, un gars comme Brian Burns, qui a été pris l'année dernière, va faire beaucoup de dégâts, je pense. Donc, c'est vraiment un choix très solide. Moi, je valide 100% Derek Brown aux Panthers.
Et pendant ce temps, Josué nous dit que Cam Newton est sur le chat pour tâter le terrain. Évidemment, il attend de voir aussi ce qui va se passer. Vous continuez d'être d'une efficacité redoutable puisque l'horloge s'écoule tout juste pour les Cardinals, représentés par Victor Roulier. Et Victor, avec le 8e choix de la draft 2020 pour les Cardinals, tu as sélectionné Jeffrey Okuda, le cornerback d'Ohio State, qui part donc 8e, c'est bas. Finalement, est-ce que tu es content? Est-ce que tu fais une bonne affaire?
C'est un peu l'idée. C'est-à-dire que d'instinct, je serais plus parti sur un offensive tackle, clairement, parce que je pense qu'à droite, Wills aurait pu faire l'affaire. Mais avoir Okuda en 8, pour moi, ça me paraît être une aubaine. Le cornerback est aujourd'hui le deuxième poste le plus important de la défense après le edge, pour moi. Certains considèrent même que c'est devenu premier. Et avoir la possibilité, il faut bien se souvenir que Patrick Peterson est en fin de contrat à la fin de la saison prochaine. Donc les Cardinals seraient bien inspirés de se renforcer sur ce poste-là. Et Jeffrey Okuda, c'est le meilleur cornerback de cette draft. Et ça sera un apport non négligeable dès le premier jour dans cette équipe.
Mehdi, toi qui connais bien les cornerbacks de qualité, vu que vous avez le défenseur de l'année en titre chez les Patriots, Jeffrey Okuda. Un duo avec Patrick Peterson la première année et puis après éventuellement numéro 1, ça semble plutôt pas mal en effet.
Il va bien apprendre en tout cas, donc ça c'est sûr. Il va avoir les bonnes bases sur notamment les différentes défenses en presse qu'il y a souvent en NFL. Et de toute façon, c'est vraiment le cornerback numéro 1. Le deuxième est vraiment un cran en dessous.
En tout cas, Gauthier est d'accord au sens où pour lui, Okuda descendra jamais aussi bas, où ce serait une grosse erreur de ceux de devant. Grégory, est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'il peut descendre jusqu'à 8?
Bon, il peut descendre jusqu'à 8. Hein. Encore une fois, il y a toujours la problématique des quarterbacks. Mine de rien, ils peuvent prendre 3 spots. Hein, donc, faut jamais dire jamais à ce niveau-là. Après, Arizona, je sais pas. Si je réponds à cette question, bon, il y a Byron Murphy qui a été drafté l'année dernière. C'est sûr que Peterson est free agent l'année prochaine, donc c'est pas à exclure. Hein. On sait qu'il y a pas si longtemps que ça, il avait émis des envies d'ailleurs, mais ça a peut-être changé entre-temps avec l'intersaison des Cards. Bon, pourquoi pas, Okuda, c'est le meilleur joueur disponible, donc ça peut se tenter éventuellement dans une défense qui doit être construite.
En tout cas, Josué le fait remarquer sur le chat, Okuda, Peterson, Baker, ça a quand même une sacrée gueule pour la saison à venir. Le 9e choix, il est justement pour Grégory Richard, donc on va rester avec toi, Grégory. Pour les Jacksonville Jaguars, tu as sélectionné du côté de la défense, puisque tu as porté ton choix sur un defensive tackle qui s'appelle Javon Kinlow et qui sort de South Carolina. Carolina, il y a des petits étonnements tiens, chez les autres managers de cette soirée. Grégory, un joueur que tu aimais bien, je crois, hein, Kinlow, quand on avait fait les émissions de preview.
Tout à fait. Alors, j'avoue, j'ai un peu salivé quand j'ai vu qu'Okuda était encore disponible au 8. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est pour Jacksonville. Je pense que de toute façon, il y a des besoins quasiment partout dans cette équipe de Jacksonville. Je vois peut-être 2-3 joueurs assurés de rester en défense et vraiment 2 titulaires a priori sûrs en attaque. Le reste, franchement, ça peut être bouleversé du jour au lendemain. Javon Kinlow, pourquoi ? Parce que je pense que le poste de defensive tackle reste quand même un besoin crucial. Abri Jones, c'est le principal titulaire, mais il me semble les free agents l'année prochaine. Tevin Bryant a été une énorme déception. Après, c'est, on va dire, un peu des joueurs de rotation, type Rodney Gunter ou encore Al Woods. Donc voilà. Sur le long terme, c'est pas forcément une garantie. Il y a des besoins sur le poste de defensive end, de linebacker, de cornerback, on est d'accord. Mais le poste de defensive tackle, sachant que le run stop des Jags est pas extraordinaire ces derniers mois, voilà, je pense que Javon Kinlow a la possibilité de se développer au sein de cette équipe floridienne.
Bon, il y a Josué qui voyait plutôt Jerry Jeudy. Tu y as pas pensé?
Si, j'y ai pensé, mais je pense qu'il y a un tel chantier en défense que ça me paraît important de ne pas le considérer également.
Mehdi, est-ce que ça te va de prendre Javon Kinlow pour remplacer Calais Campbell quasiment?
Oui, mais je serais parti surtout sur plus un offensive tackle, mais après c'est mon point de vue. Mais non, Kinlow, je le voyais un tout petit peu plus bas, mais après, goût et couleur.
On va boucler le top 10, messieurs, avec le 10e choix. C'est Jean-Michel qui l'a fait pour les Cleveland Browns et il a décidé de s'orienter vers un lineman offensif puisque c'est Jedrick Wills, le tackle, qui débarque dans l'Ohio. Ça semble être une décision logique. Est-ce que c'est meilleur joueur au bon moment quasiment pour toi? C'était une bonne opportunité, Jean-Michel, parce qu'ils ont besoin de monde pour protéger Baker Mayfield.
Ah, mais c'est même inattendu. Je veux dire que ce joueur-là soit encore disponible à 10. C'est, pour moi, c'est vraiment une aubaine, quoi. Le pic va prendre 2 secondes. Ils vont appeler Roger de suite et ça va se faire. C'est obligatoire. Oui, un offensive tackle, il y en avait encore. Moi, j'aurais pensé en prendre d'autres, mais Jedrick Wills. Alors, on peut me sortir qu'il a toujours joué à droite, que ce soit au lycée ou à Alabama, mais quand on voit son jeu de pied, quand on voit sa technique, c'est-à-dire, par exemple, il est très bas sur ses appuis, il a déjà un bon équilibre, c'est un vrai technicien, même s'ils ont pris Conklin à droite, je doute pas une seule seconde que Jedrick Wills pourra occuper le côté gauche de la ligne. Et je pense que Baker Mayfield fait des ponts de joie s'il voit ce choix. Hein.
Victor, convaincu par Jedrick Wills pour protéger Baker Mayfield?
Oui. Oui. J'aurais été convaincu par Andrew Thomas aussi. Mais alors là, vraiment, c'est une question de goût. Je peux comprendre qu'on considère que Wills a plus de potentiel. C'est logique de vouloir protéger Baker Mayfield. Il a connu une deuxième année très compliquée. Il faut qu'il rebondisse tout de suite. Et clairement, c'est la priorité pour eux. Donc oui, ça me paraît
Une bonne question que j'ai vue passer de Antoine, est-ce que Wills jouera à gauche ou à droite parce qu'ils ont signé Jack Conklin? Je vais revenir vers le GM, hein, Jean-Michel. Tu fais quoi là avec Conklin et Wills au début de la saison?
Bon, déjà, tu testes au camp, tu vois un peu ce que ça donne. Mais à mon avis, si c'est les deux là qui sont au début de la saison, c'est Wills qui passe à gauche. De par sa mobilité, de par sa technique, moi je pense que Jedrick Wills a toutes les armes pour être à côté gauche.
Eh bien, on renforce donc la protection du côté de Cleveland. On va aller du côté de New York, où là aussi, visiblement, on a de la chance parce que le choix est tombé. Et cette équipe de New York qui avait besoin d'un receveur, avec le 11e choix de la draft, sélectionne Jerry Jeudy par Mehdi Julien, donc le les Jets, c'est ironique, les supporters des Patriots, vous l'avez saisi. Donc, Jerry Jeudy est sélectionné par les Jets. Mehdi, là aussi, ça semble ultra logique. C'est probablement pour ça que ça n'arrivera pas demain, parce que les trucs logiques qu'on prédit à chaque fois n'arrivent pas. Mais c'est vrai qu'ils ont perdu Robbie Anderson, ils doivent mettre des cibles pour Sam Darnold. Ça semble logique.
Voilà, tu as tout dit, hein. Ils ont perdu Robbie Anderson. Donc, pour moi, Jerry Jeudy est le meilleur receveur de la draft. Il a très peu de choses devant CeeDee Lamb. Il a tout ce qu'il faut. Il peut devenir receveur numéro 1 dès le premier match en NFL. Peut-être devenir une superstar de la ligue. Il sait tout faire, je pense, sur un terrain. Il a des bonnes mains, un bon tracé. Il a une bonne vitesse, une bonne séparation. Après, avoir vu qu'il va manquer quand même de la protection pour Darnold, peut-être que la première année va être difficile pour Jeudy. Peut-être qu'il ne va pas avoir assez de ballons, assez de réceptions. À voir aussi comment il s'adapte à la NFL. Mais franchement, comme on dit aux États-Unis, c'est un no-brainer pour moi.
No-brainer. Donc, Jerry Jeudy, meilleur receveur de la draft. Je crois que c'était le cas pour toi aussi, Greg. Non, dans l'émission, c'est vrai que c'était un peu…
C'est compliqué. Je vais te faire une réponse de Normand. Hein. Excuse-moi pour l'hommage. Mais je sais pas. J'aime bien Lamb. J'aime bien Lamb.
T'aimes bien Lamb. Ouais. Et bien, justement, on va aller du côté de Las Vegas où le chat réclame, dit Jay Cognier, dit à Las Vegas, on adore l'agneau, fais pas le con, Victor. il se passe des choses. Hein. Les supporters des Raiders sont en force sur le chat. Flo07 qui dit yes, CeeDee Lamb pour les Raiders, just win, baby. Justement, le choix numéro 12 arrive. Vous allez être fixé. Je fais monter la pression. Non, on va aller à la pub peut-être. On va peut-être aller à la pub. Avec le 12e choix de la draft 2020, les Raiders, dirigé par Victor Roulier.
Je vais dire.
Les Las Vegas Raiders. En fait, j'ai hésité à dire Oakland, c'est pour ça que je m'embrouillais totalement. Victor les Las Vegas Gruden. Raiders sélectionnent CeeDee Lamb, le receveur. CeeDee Lamb était donc le meilleur receveur pour toi ou pas
Mais oui, c'est le vrai meilleur receveur de cette draft. C'est évident. Alors, pour le coup, là, vraiment, au niveau des Raiders, j'avais une petite hésitation avec un cornerback dont on parlera plus tard, parce qu'encore une fois, c'est une position que j'aime beaucoup. Mais pour moi, CeeDee Lamb, c'est trop de talent pour passer à côté. C'est vraiment un playmaker dans le sens où ça peut devenir, hein, pour moi, un top 10 receveur de la ligue, voire même un top 5 s'il se développe très correctement. Il a les mains les plus sûres que j'ai vues depuis peut-être jamais d'ailleurs. Il est propre, ses tracés sont propres, il sait créer de la séparation. Il a tout globalement et c'est le vrai receveur numéro un. Après, je peux comprendre qu'on préfère Jerry Jeudy. Franchement, c'est plus une question de goût que vraiment d'expertise à ce niveau-là. Mais là, Oakland apporte un talent énorme à son attaque.
Alors, Mehdi est le seul qui n'est pas d'accord, donc je suis obligé de lui demander son avis. Mehdi, pourquoi
moi aussi.
Vous êtes deux. Bon, autant pour moi. vous allez tous les deux avoir votre mot à dire. Mehdi, pourquoi toi, tu préfères Jerry Jeudy?
Après, comme dit Victor, c'est une question de goût. Je sais pas, l'impression visuelle, quand je le vois, j'adore regarder les receveurs comme j'y ai joué. Et l'impression visuelle, je sais pas, je le trouve plus fluide. Lamb est exceptionnel, c'est un receveur exceptionnel, mais je sais pas, j'ai l'intuition que Jeudy sera meilleur.
Jean-Michel, je trouve, j'y arrive plus. Jean-Michel.
Oui, en fait, en tant que fan des Raiders, je serais content d'avoir Lamb. Il n'y a pas de souci, c'est un très bon joueur, un très bon receveur, mais si j'ai le choix, bon là je l'avais pas, et Jeudy était parti avant, mais si j'avais le choix, moi je prendrais Jeudy, mais tous les jours. Ne serait-ce que sa capacité à courir les tracés, je veux dire, c'est une meilleure version de Stephon Diggs, en gros. C'est le mec qui fait tous les tracés de façon fluide, il peut le faire en vitesse, il peut le faire à l'extérieur, il peut le faire à l'intérieur.
C'est le plus complet.
Ah oui. Pour moi, c'est clairement le numéro un. Après, ça se discute, et puis CeeDee Lamb, c'est un très bon joueur, il n'y a pas de problème.
Alors, Sylvain demandait dans la configuration de votre mock pourquoi les Raiders n'iraient pas sur Mekhi Becton maintenant et prendre un receveur en 19. C'est juste l'occasion pour moi de rappeler que là, il n'y a pas de concertation. Ils prennent selon le flow hein, de ce qu'on fait. Tout est en direct. Donc, peut-être aussi que ça a été fait, un, parce que Victor pense que CeeDee Lamb est le meilleur et qu'il faut le prendre tout de suite. Et puis, deux, peut-être parce qu'il avait peur qu'il n'y ait pas de receveur en 19. Et puis, peut-être que Mekhi Becton, vu qu'il a eu un test anti-drogue un peu suspect, hein, si j'ai bien compris, ces derniers jours, peut-être qu'il y en a un là qui a peur et qui n'ose pas le prendre.
Mais
peut-être.
Même sans ça, je n'ai même pas considéré. Pour moi, Becton, c'est non. En 12, c'est non.
Bon, on passe au choix numéro 13 des 49ers parce que l'horloge est terminée. Avec le 13e choix, les 49ers de Gregory Richard ont sélectionné un autre receveur, le troisième de suite, c'est Henry Ruggs. Grégory, est-ce qu'il est significativement moins bon que les autres? Est-ce que tu es content de l'avoir en 13? Comment ça se passe?
Je suis content de l'avoir en 13. Alors, je vais dire un truc très simple. On se posait la question de savoir qui est le meilleur receveur entre Judy et Lamb. Je peux avoir mon avis sur la question. Maintenant, il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on est dans une copycat league et que les Chiefs viennent d'être champions avec un receveur numéro 1 qui s'appelle Tyreek Hill. Et Henry Ruggs ressemble quand même à ce profil de receveur. Donc, je ne serais pas étonné que les Niners, avec une attaque très axée sur la vitesse, aiment beaucoup ce type de profil. Un joueur qui est vif, qui est aussi étonnamment physique pour son gabarit. Donc, je pense que quand il s'agira de bloquer également pour les petits camarades, ça posera pas de problème dans le système de Shanahan. Là, franchement, j'avoue, j'ai hésité entre Andrew Thomas et Ruck, sachant que Thomas, il y a peut-être dans la possibilité de préparer le tackle du futur. Mais franchement, receveur, Henry Ruggs, même si ça donne un corps de receveur un peu petit, je trouve, avec Deebo Samuel, ça peut être quand même très, très excitant à voir pour Jimmy Garoppolo.
Mehdi, toi qui es spécialiste donc des receveurs, Henry Ruggs, c'est le numéro 3. C'est quand même bien de l'avoir en 13 ou c'est trop haut pour toi?
C'est en 13, c'est parfait. Je pense que les trois receveurs, je pense qu'ils vont partir dans cet ordre-là ou inversement. Mais Ruggs, il peut faire aussi un peu office de joueur gadget pour vu sa vitesse, être positionné aussi dans le slot, vu ses capacités physiques, aller défier un peu les linebackers avec sa vitesse, ça peut faire des gros dégâts.
Pendant ce temps-là, sur les pronostics, sur le chat, quelqu'un suggère que Becton, ce serait pas mal chez les Buccaneers. C'est Josué qui propose ça. Si CJ Anderson nous trade avec le 13 pour San Francisco, c'est ce qui a le plus de sens pour moi. Enfin, alors encore une fois, on vous le dit, on n'a pas d'échange dans cette mock draft. Après, si vous voulez le mentionner, hein, quand vous faites un choix que vous auriez peut-être voulu descendre, n'hésitez pas. Si vous voulez vous mettre vraiment à la place du GM, on va passer au 14e choix. Donc, l'équipe de Tom Brady. Oui, maillot rouge, mais ça, c'est un maillot rouge rétro. Mais vous avez l'idée. Le 14e choix donc pour l'équipe de Tom Brady, les Tampa Bay Buccaneers, Jean-Michel Boujard et leur GM. Et Jean-Michel a choisi pour eux quelqu'un pour protéger Tom Brady, c'est Andrew Thomas. Là encore, Jean-Michel, on est plutôt dans un choix logique a priori.
Oui, exactement. Oui. C'est même un petit peu inespéré, moi je trouve, parce que à 14, je ne serais pas étonné que les Bucks soient obligés de monter un petit échange pour attraper un des quatre. Et bah, dans notre scénario, bah, c'est parfait. Il y en a même deux qui sont encore disponibles. Et donc, je privilégie plutôt Andrew Thomas par rapport à Becton. Pourquoi Andrew Thomas? Parce que il a de l'expérience à gauche, il a de l'expérience à droite, il est très bon dans le jeu de course. Et c'est pas le meilleur des athlètes, mais il me donne beaucoup plus de fiabilité qu'un Mekhi Becton, que j'aime bien. Mais pour moi, Andrew Thomas est clairement au-dessus. Donc, les Bucks, ils sont en mode win now avec Brady, avec Gronk, avec leur receveur. Donc, ils ont déjà un tackle gauche. Pas extraordinaire, mais un tackle gauche qui tient la route. On met Andrew Thomas à droite et l'attaque, ils seront tranquilles.
On est d'accord, Grégory. Donc, Jean-Michel parlait de Big Four. C'est ça, c'est Wills, Thomas et Becton. C'est le top 4 des tackles et ils sont tous top 15.
Oui. Alors après, Becton, faut voir par rapport, les conséquences qu'a eu son test révélé il y a quelques jours. Après, très franchement, ouais, les trois premiers que tu as cités, pour moi, c'est top 15 quasi sûr.
Bon, a priori, donc, il pourrait y en avoir un pour les Buccaneers. Heisenberg TV demande, vous voyez des échanges entre franchises ou une équipe capable de monter pour un joueur? Je rebondis là-dessus parce que Jean-Michel en parlait notamment pour les Buccaneers. Est-ce qu'on est d'accord en aparté que ça risque d'être une draft riche en échanges pour des vétérans parce que intersaison très courte probablement à cause du Covid et de fait, il faudrait des joueurs prêts à l'emploi pour certaines équipes qui privilégieront probablement ça au choix de draft. On est d'accord?
D'accord. Oui, exactement. Oui.
On fait à peu près consensus là-dessus. Oui. On va donc passer au choix des Broncos, le numéro 15, pour Mehdi Julien, qui me l'a déjà envoyé, si je ne dis pas de bêtises. On va donc passer à ce choix numéro 15 en 2020. Mehdi Julien, pour les Broncos, a choisi Mekhi Becton, justement. Et ben vous voyez, le top 4 des tackles, ils sont dans le top 15, comme on vient de le dire. Mehdi, on renforce la ligne, donc tu crois en Drew Lock?
Je crois, mais complètement en Drew Lock. Je suis pas fan des Broncos, mais j'étais vraiment convaincu par sa fin de saison. Ils ont des besoins en attaque, ils ont des besoins de receveurs, mais je pense que Mekhi Becton, c'est un potentiel. Il va falloir qu'il travaille, peut-être pas qu'il sera titulaire dès le début, mais il a un tel potentiel physique qu'il peut devenir vraiment dominant. Après, c'est un potentiel, donc je vais pas m'avancer pour savoir si dans 2-3 ans, il sera déjà un tackle titulaire solide.
Bon, Jean-Michel, tu viens de parler tackle avec Andrew Thomas, tu le disais, mais
oui. Clayton,
c'est le top 4 à Denver. C'est un endroit où tu le vois se développer et devenir le copain de Drew Lock pour l'avenir pour 15 ans.
Exactement, parce qu'à gauche, ils ont Garrett Bowles et c'est pas vraiment l'assurance tout risque. Donc, oui, mais Kai Becton, il a un tel potentiel. C'est ça le truc. Alors, il a prouvé en université, mais après, c'est surtout du potentiel physique. Et donc, s'il développe bien, ça pourrait être vraiment un monstre et pour les années qui arrivent, quoi. Oui, c'est un très bon choix.
On passe au choix numéro 16 des Atlanta Falcons, qui est très vite arrivé. Je sens que vous êtes affûté, là. Il y a des big boards et dès que ça dégage vos choix, vous envoyez. Hein. Il y a aucune
hésitation. Et pourtant, on s'ajuste, hein. Si je peux me permettre. Pourtant, on s'ajuste. Hein. J'avais pas prévu Tua aux Chargers, etc. par exemple. Tu vois.
Ah bah, je me doute bien, là, on arrive dans le dur. Hein. On est à mid-draft, ça commence à bouger un peu. Et là, on arrive.
On est dans le vrai.
Avec le 16e choix, on va arriver pile poil à la moitié de cette draft. Avec le 16e choix de la draft 2020, le premier tour, Victor Roulier pour les Falcons a choisi CJ Anderson, un cornerback. Est-ce que c'est un peu haut? J'avais pas l'impression d'avoir vu si haut dans les mock draft CJ Anderson. Victor, pour les Falcons.
Pour moi, c'est exactement sa place. C'est un joueur que j'avais même considéré en 12, même si Lamb était pour moi trop au-dessus pour le sélectionner. C'est le cornerback numéro 2. Autant Okuda est le numéro 1 incontestable pour moi, Anderson est le numéro 2 incontestable. Il a parfois des petits problèmes de concentration et de plaquage, mais globalement, ça reste un cornerback en homme à homme assez extraordinaire. C'est de facto le cornerback numéro 1 des Falcons pour moi. Les Falcons ont besoin de renforcer la défense. Je veux dire, c'est une évidence. J'enfonce une porte ouverte et je prends le meilleur joueur défensif disponible. En plus, c'est un poste où ils ont besoin. Pour moi, c'est un choix évident et je pense que c'est vraiment sa place. Moi, dans mon big board, il est 18e, je prends en 16.
Donc, on comble un besoin, du coup, avec le meilleur joueur disponible à ce poste-là pour les Falcons?
Oui, après, ils ont tellement de besoins que ça peut être la ligne défensive, linebacker, corner. C'est un choix tout à fait logique.
Grégory, alors tu as déjà envoyé ton choix suivant, donc je peux quand même te demander si Atlanta récupérait CJ Anderson, est-ce que tu serais heureux?
Ouais, alors c'est vrai qu'il y a besoin d'un cornerback numéro 1, ça c'est clair et net, et c'est vrai que je trouve qu'il ressemble beaucoup quand même au profil de Desmond Trufant, donc je pense que oui, ça remplacerait, la transition serait pas si délicate que ça en l'occurrence, et on sait que Dan Quinn adore les défenseurs de Florida.
Je réponds à une question du chat qui demande à quelle heure la draft est diffusée. Évidemment, je le rappelle, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h du matin. Et si vous cherchez où la suivre, c'est évidemment avec nous. Nous serons de nouveau en direct sur YouTube pour débriefer tous les choix du top 10, voire du top 15. Comme l'année dernière, on fera. Si on est de bonne humeur et que ça se passe bien, on prolongera un petit peu le plaisir. Donc, nous serons encore là, on l'a dit, hein, cette mock draft, elle sert aussi de répétition à ce qu'on va faire demain techniquement. Et pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. 41 minutes de direct, pas d'accro. Camille est serein, je le vois dans sa fenêtre. Pour l'instant, tout roule. Il gère les opérations. Donc, on est pas mal. On passe au choix numéro 17 des Cowboys qui est tombé très, très vite. C'est pour ça que je le disais. Les Cowboys en numéro 17, Grégory Richard a choisi pour eux Calvin Chesson, edge rusher, Grégory. Donc, on apporte encore du punch au pass rush de Dallas.
Ouais, et puis je sais que ça va faire plaisir à Victor Roulier, qui est un grand fan du joueur. Mais non, ça c'est. Alors c'est vrai que c'est un joueur qui en effet a pas suffisamment produit, on dira, du côté de Louisiana State, hein, avec notamment une année blanche, sa deuxième pour cause de longues blessures. Maintenant, c'est un joueur qui est extrêmement polyvalent, extrêmement athlétique et qui s'incorpore très bien dans un système 34, le système a priori dans lequel devraient passer les Cowboys et Mike Nolan. Et je pense qu'il serait très complémentaire du côté pur pass rusher de DeMarcus Lawrence. Avoir un homme à tout faire comme ça sur l'extérieur du deuxième rideau pour Dallas, ce serait une très bonne chose, je pense. Et ça permettrait justement de faciliter un petit peu cette reconstruction qui s'amorce au niveau de la défense texane.
Le choix donc de Calvin Chesson, Mehdi, est-ce que ça te va pour Dallas? Est-ce qu'ils n'auraient pas pu prioriser un peu ailleurs? Il y a Byron Jones qui était parti.
J'étais pas parti sur ce joueur-là, mais sur le même type de joueur.
Sur le même type donc, de joueur, ok. Voilà. Victor, est-ce que tu serais parti sur un même profil?
Alors, on va dire que le poste, je comprends. C'est vrai que moi, ce joueur, j'ai beaucoup de mal. On me dit il est polyvalent. Moi, je trouve surtout qu'il est moyen plus partout et excellent nulle part, ou en tout cas, on ne sait pas. Il a tellement été utilisé différemment qu'on ne sait pas vraiment dans quel système il peut être meilleur, quels sont les schémas de jeu qui lui conviennent. Donc, c'est un gros risque. J'aurais plus vu une équipe qui a beaucoup de pics et en reconstruction comme Miami prendre ce type de risque. Dallas, c'est plus étonnant, mais bon, c'est Jerry Jones, ils sont capables de prendre ce genre de joueur flashy, ça ne me surprendrait pas plus que ça. C'est vrai que personnellement, j'ai un peu de mal avec le joueur.
Avec le 18e choix, je vois Flo qui dit c'est dommage que Alain ne prononce pas with the X pick of the. Bon, je vais pas le faire à chaque fois quand même. Mais là, on est encore une fois, on est en répétition. Peut-être demain, je mettrai un costume, tu vois, pour le direct de la draft quand même. Je vais sortir un costume rouge avec des chaussures à clous, tu vois, parce que ça va me manquer de pas voir les prospects mettre des tenues folles qu'on voit tous les ans. Donc voilà, peut-être. Avec le 18e choix de la draft, c'est Jean-Michel qui dirige les Dolphins. Les Dolphins qui ont déjà donc leur 2e choix. Il y avait des suppositions un petit peu sur le chat. Dolphins ont 18, un défenseur sur la ligne, point d'interrogation. Eh bien, non, puisque avec le 18e choix, c'est Xavier McKinney, le safety, qui sort pour les Dolphins. Ah, un petit haut pour Mehdi, étonnement. Grégory a l'air plutôt d'accord, Victor a l'air plutôt d'accord. Jean-Michel, pourquoi un safety à Miami ?
Parce que vraiment, ils ont besoin en attaque, oui, sur la ligne offensive, effectivement. On aurait pu penser à un autre choix, par exemple, un offensive tackle, mais il y a un gap après les 4 premiers. Et puis, il faut pas oublier que Miami a encore un choix dans ce premier tour. Et pourquoi un safety? Parce que ils ont pris des defensive end lors du marché avec Shaq Lawson, avec Emmanuel Ogba, ils ont pris des linebackers avec Caleb Van Noy, avec Robert. Alors, ils ont signé certes un très bon cornerback avec Byron Jones, mais justement, imaginez, vous avez une paire, Xavier Howard, Byron Jones, et au milieu, vous mettez Xavier McKinney. En deux mots, McKinney, c'est quelqu'un qui, cette année à Alabama, a été aligné surtout en safety, certes, mais également en cornerback, inside linebacker et outside linebacker. C'est une sorte d'homme à tout faire. Et même si c'est pas Minka Fitzpatrick, le clin d'œil, quelque part, est sympa, puisque ce choix 18 est acquis des Steelers, après le trade de Fitzpatrick. Donc, un homme polyvalent à tout faire et un défenseur comme les aime Brian Flores.
C'est vrai. Grégory, est-ce que ça te va? Xavier McKinney, tu avais l'air plutôt d'accord.
Ouais, je rejoins globalement ce qu'a dit Jean-Michel. Alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas un grand fan de McKinney, justement. Alors, je reprends un peu les arguments de Victor tout à l'heure sur Chesson, mais c'est vrai que McKinney, pour moi, c'est peut-être un hybride qui sait faire un peu trop de choses. La formule est mal choisie, mais oui, c'est vrai qu'en couverture, je trouve pas aussi rassurant, mais c'est vrai qu'il a un gros volume de jeu, et en effet, pour un coach comme Flores, ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, oui, non, très franchement, il est 17 ou 18 sur mon board perso, donc le prendre en 18e choix pour Miami, c'est pas déconnant.
Mehdi, t'avais l'air plus étonné.
Un petit peu, je le pensais descendre un peu plus bas, mais après, ils ont besoin de safety, donc logique aussi. J'étais parti sur un autre type de joueur pour les Dolphins.
On va retourner alors du côté de Las Vegas, qui a aussi son 2e choix. Ils avaient déjà le 12e, ils avaient sélectionné CeeDee Lamb avec Victor. Cette fois, c'est Mehdi qui choisit pour les Raiders. Et Mehdi, donc tu vas garder la main parce que tu as sélectionné le joueur qui a le meilleur nom de cette draft. Yetur Grosmatos est avec nous, ça y est, il arrive en 19e position. Il y a donc du pass rush. C'est une draft défense, une draft non, j'allais dire défensive, mais c'était pas un corner, c'était CeeDee Lamb d'ailleurs. Donc il passe en défense. Yetur Grosmatos, ça complète Clelin Ferrell qui était un choix très haut l'an dernier déjà.
Oui, ça complète aussi Crosby qui a fait une très bonne deuxième partie de saison. Ça apporte de la densité sur la ligne défensive et sur le pass rush. Après, j'étais pas parti sur ça au départ et bon, j'ai dû m'ajuster, mais je pense que Grosmatos, ça peut faire énormément de bien sur la ligne défensive. Et comme elle est très jeune, c'est une ligne défensive, ce pass rush. Avec l'expérience, ça peut devenir vraiment une ligne défensive dominante dans 3-4 ans.
Bon, un choix qui complète Clelin Ferrell ou pas alors, Jean-Michel?
Oui, bien sûr, oui. Et comme il dit, il complète aussi Mac Crosby. Mais justement, vu qu'il y en a déjà deux, c'est vrai que je n'aurais pas fait ce choix-là. Je serais parti plutôt sur une autre position. Mais oui, ce que j'aime bien avec Yetur Grosmatos, c'est que on parle beaucoup de plancher ou de plafond. Ben, lui, en fait, il a les deux. C'est-à-dire qu'il a déjà le plancher. C'est un contributeur. Dès la première saison, il va pouvoir jouer. Et en plus, il a un gros plafond, c'est-à-dire une grande marge de progression. Donc oui, l'un dans l'autre, c'est un choix du premier tour.
Bon, Grégory, Julien qui dit que c'est très haut pour Yétur Grosmatos sur le chat. Raphaël Masmejean qui dit aïe aïe aïe, qui va défendre les attaques aériennes adverses. Est-ce que tu es d'accord avec Yétur Grosmatos?
Voilà, j'aurais pris un cornerback, moi. Je te donne la parole, Grégory.
Ah. Alors, parti sur ça au départ.
Oui, moi, très franchement, j'aurais peut-être pété vers un corner. Oui, Grosmatos, très franchement, c'est une inconnue. J'en avais parlé lors de la preview. C'est vrai qu'il y a ces zones d'ombre concernant le côté extra-sportif. Après, d'un point de vue productif.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
C'est clairement pas le joueur qu'on peut dénigrer. Enfin, on peut pas remettre en doute sa volonté et voilà son côté vraiment offensif, on dira dès le snap. En plus, il peut apporter une certaine contribution sur le jeu au sol. Donc, non, très franchement, c'est un joueur qui est assez complet. Et Las Vegas pourrait avoir l'opportunité de miser dessus, même si bon, pour moi, les deux titulaires sont déjà là.
Bon, c'est un choix un peu haut, en tout cas de l'avis du chat. Mehdi, tu as été un des premiers audacieux. Voilà. On n'est pas encore très haut sur l'échelle de Pete Carroll en termes d'audace. Donc, vous avez encore de la marge. Mais si on attaque avec le 20e choix, on entame le dernier tiers. 20e choix pour Victor Roulier et les Jacksonville Jaguars qui sélectionnent Jeff Gladney. Jeff Gladney, j'ai un trou sur le poste. C'est un cornerback, justement, de TCU. Est-ce qu'il peut remplacer Jalen Ramsey, Victor?
Alors, remplacer, c'est pas exactement le même type de joueur, mais en tout cas, c'est sûr que dans une logique qui continue un peu celle du choix numéro 9 de Grégory, on renforce sa défense. Et autant il y a des besoins en run stop, il y a aussi des besoins en couverture aérienne. Jeff Gladney, c'est un joueur que j'estime beaucoup. Certains vont trouver que d'autres cornerbacks auraient pu être pris à sa place et je peux très bien comprendre, mais c'est vraiment peut-être un des cornerbacks les plus propres qu'on est dans cette draft. On a une draft où il y a beaucoup de joueurs qui manquent un peu leur plaquage, qui ont des petites sautes de concentration. Lui, c'est clairement un joueur propre. Ce n'est pas un physique XXL. Ça peut lui jouer des tours, mais moi, je suis plutôt de ceux qui croient dans ce joueur-là.
Est-ce que Jeff Gladney, on y croit aussi, Mehdi?
Oui. De toute façon, les Jaguars ont tellement de besoins. Gladney, après, je le voyais plus bas, mais... Franchement, en cornerback, ils ont tellement personne qu'il faut en prendre.
On passe au choix 21 des Philadelphia Eagles que Victor va regarder avec attention. C'est Grégory Richard qui a fait le choix pour les Philadelphia Eagles. Alors, on va voir si tu te fais siffler par Victor parce que les supporters de Philadelphie, ils sont durs. Hein. Grégory, donc, avec le 21e choix pour les Eagles, a sélectionné un receveur. C'est Denzel Mims. Non, il n'y a pas de sifflet. J'attendais de savoir s'il y avait des sifflets, mais il y a de l'étonnement.
Oh là 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 là.
Grégory, apparemment, il faut te justifier face à tes collègues.
Oui, je suis parti sur Denzel Mims. Il y a plusieurs directions. C'est vrai que le nom qui revient le plus, c'est Justin Jefferson, le joueur d'LSU. Mais c'est vrai que j'en avais parlé un petit peu. Je commence à avoir quand même quelques doutes sur sa capacité à être un vrai receveur numéro 1 à l'échelon supérieur. Et j'ai quand même la sensation que Denzel Mims, même s'il y a du travail, même si c'est pas mon receveur préféré de cette classe, je le dis très clairement, il a quand même déjà, je pense, un plafond un peu plus haut. Et il me rappelle quand même beaucoup Nelson Agholor également. Il y a un physique qui est globalement similaire. En fait, le défaut. J'ai dit je pensais à Alshon Jeffrey, pardon. Je pensais à Alshon Jeffrey. Autant pour moi. Désolé, ma langue a fourché. Il y a des aptitudes assez similaires. Et ce qui avait fait notamment que Jeffrey avait été drafté très bas lors de sa draft. C'est à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire que il n'a pas des attributs athlétiques qui sont énormissimes, mais il a quand même une vitesse intéressante. Il a un gabarit surtout qui lui permet de, malgré une capacité de séparation qui reste assez quelconque, de prendre le dessus sur son vis-à-vis. Et c'est ce qui m'amène à penser qu'il peut quand même avoir le potentiel d'un bon receveur de possession et un bon profil de numéro 1, justement pour remplacer Alshon Jeffrey qui est un peu en disgrâce actuellement du côté de la Pennsylvanie.
Alors, on va aller vers Victor, évidemment, puisque c'est le supporter des Eagles désigné. Juste pour le chat, horrible ce choix pour Sacha, oula pour Julien, encore une Pete Carroll pour Sébastien, bouh pour Dylan Allen, oh la comparaison pour Nitinia. Ça a l'air compliqué ce choix, populaire en tout cas, l'opinion publique n'est pas tout à fait d'accord avec Grégory. Victor, de ton côté, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Est-ce que tu vas le démonter dans ton podcast sur les Eagles
Alors déjà juste en introduction 15 secondes, et justement j'en parlais dans un des podcasts, pour moi le choix 21, c'est clairement une cible à trade up et à trade down énorme. Donc toi qui disais Alain de parler parfois des mouvements possibles, ça serait très étonnant que les Eagles draftent en 21. Pour moi c'est soit ils vont chercher un gros bonnet, soit ils vont chercher de la profondeur. Après, le choix du receveur, j'aurais pas fait celui-là. Par contre, je rejoins l'idée que Justin Jefferson, qui est plutôt un slot, moi, pour moi, c'est pas exactement ce dont on a besoin. Je serais pas parti sur Mims. Je serais pas parti sur Rigor, que certains auraient choisi, parce que Rigor, lui, c'est Agholor, par contre, pour le coup. Mais en soi, Mims, c'est pas un mauvais joueur. Je veux dire, je comprends le projet. Encore une fois, j'aurais eu le choix. Si j'ai un partenaire, je trade down.
T'as vu, je t'ai laissé placer une petite promo quand même. Si vous êtes supporter des Eagles, suivez le compte Eagles FR et ils font un podcast où Victor apparaît
bon podcast. Bon podcast.
Voilà, ouais,
il est bon.
Il est gentil.
C'est Loïc, ton collègue.
Loïc de Eagles FR et Grégory Hacher. Oui. Tout à fait.
Voilà. Donc, c'était le choix des Eagles. On va passer à celui des Vikings parce qu'il est déjà arrivé. 22e choix des Vikings par Jean-Michel, qui est leur GM. Il a choisi AJ et Penessa sur le bout de la ligne. On fait quoi, Jean-Michel? On remplace les Everson Griffin, les Linval Joseph? On renouvelle la ligne?
Ben voilà, t'as tout dit. En fait, on parle beaucoup du départ de Stephon Diggs, mais il faut surtout voir leur défense, quoi. Ils ont perdu 3 cornerbacks et ils ont perdu sur la ligne défensive, comme tu as dit, Everson Griffin, Levan Joseph et Stephen Weatherly. Donc, j'ai hésité, corner, defensive end, et puis, pour moi, AJ Penessa, c'est la valeur sûre, en fait. La valeur sûre de ce premier tour, le gars, c'est pas le plus athlétique, mais il est très technique. Lui, justement, il a des mains très, très violentes. Je veux dire, regardez ses vidéos, c'est simple, il fait un pas, ses deux mains balayent les mains de l'offensive lineman, et puis ça y est, il est passé, c'est trop tard. Donc oui, et AJ Penessa qui en plus a vraiment le gabarit, c'est défensive end dans le genre costaud, qui sur troisième tentative, vous le glissez un petit peu à l'intérieur. Donc c'est pas un obstacle comme Levan Joseph, mais quelque part il peut remplacer à la fois Everson Griffin à l'extérieur et sur troisième tentative le faire glisser à l'intérieur.
Grégory, pour les Vikings, un choix sûr et AJ Penessa?
Ah bah, Jean-Michel m'a pris par les sentiments et a parlé des mains violentes, donc forcément je suis obligé de... Non, c'est vrai que voilà, il y a ce côté vraiment, en plus du côté de Minnesota, ouais, le côté vraiment physique, vouloir se faire respecter dans les tranchées, je pense que c'est quelque chose qui va plaire à Mike Zimmer et en effet Jay Penessa. C'est vrai qu'il y a la question qui commence à se poser de savoir s'il serait pas mieux un petit peu à l'intérieur vu les formats, vu les systèmes défensifs actuels. Mais voilà, je rejoins parfaitement ce qu'a dit Jean-Michel. Il y a cette polyvalence justement qui peut lui permettre, en fonction des tentatives et du jeu qui va être proposé par le coordinateur, de s'adapter. Voilà, il y a son déficit de vitesse qui est mis en avant forcément, mais il compense avec beaucoup d'autres choses, notamment l'attrait technique.
Ils n'auraient pas pu prendre un cornerback à ce niveau-là? Parce qu'il y a beaucoup de départs aussi, hein. Victor, est-ce que tu voyais un corner, par exemple, pour les Vikings?
Ça aurait pu, mais là, je...
Est-ce qu'il y en a dans cette zone-là, voilà.
Le seul qui est peut-être dans cette zone-là, c'est Christian Fulton. Après, moi, je ne suis pas fan du tout du joueur, donc je suis plutôt partisan de renforcer les lignes. Alors, ça aurait pu être l'autre ligne, la ligne offensive. Même si on sait que les Vikings ne sont pas très forts pour choisir des linemen offensifs historiquement dans la draft. Mais oui, ça me choque pas comme choix. Il faut renouveler et les lignes. C'est jamais mauvais d'investir sur les lignes en football américain.
Bon, petit point de chat avant de passer au choix des Patriots, ce qui est très attendu, mais du coup, j'en profite. Flo07 qui dit que Grégory a une super décoration d'intérieur. On dirait la chambre du yacht de Jerry Jones, tellement c'est beau. je tiens à transmettre. Et sinon, pour revenir sur un commentaire qui a eu lieu un peu plus tôt, quelqu'un demandait si j'avais reçu ma tondeuse. La réponse est évidemment non. Et on verra si elle arrive demain. Peut-être que je me raserai la tête avant le direct. On verra bien. Mais c'est toujours en cours. Je tiens à le préciser. Donc, le choix des Patriots en numéro 23. Alors, on vous jure qu'on n'a pas fait exprès. On a dit que c'était l'ordre alphabétique, mais c'est tombé sur Mehdi, donc supporter des Patriots, qui fait le choix des Patriots. Donc là, on ne pourra pas dire qu'on voulait leur mettre quelque chose de mauvais ou quoi. C'est vraiment l'expert qui a choisi. Et avec le 23e choix, les Patriots de Mehdi choisissent Grant Delpit, un safety. Est-ce qu'il y avait vraiment le plus gros besoin au poste de safety, Mehdi, et pourquoi Grant Delpit?
Alors, ce n'était pas du tout mon choix de début, mais Jean-Michel m'a piqué mon choix.
C'était Epenesa?
Epenesa, oui.
D'accord.
J'ai beaucoup douté au départ avec Jordan Love, mais je pense très franchement qu'on va peut-être monter au deuxième tour avec tous nos choix, troisième, quatrième tour. Pour monter au deuxième, pour aller chercher Jake Fromm, peut-être, ou Jordan Love. Mais donc je suis dû me rabattre sur un de mes choix de secours. Et je pense Grant Delpit, parce que nos safety aux Patriots, ils sont vieux. Devin McCourty, il a la trentaine passée. Patrick Chung, pareil. On l'a vu la dernière saison, Patrick Chung, il commence à vieillir et à avoir du mal à suivre les linebackers. Je ne pense pas qu'il soit encore prêt pour être strong safety Delpit, mais c'est un potentiel. Et je pense que ça, il va bien apprendre derrière McCourty. Il va avoir McCourty à l'entraînement, Gilmore, Chung, l'autre McCourty. Franchement, je pense qu'il peut qu'apprendre et devenir un safety dominant.
Bon, alors, tout le monde part sur Jordan Love sur le chat, je te le dis. PCM 1377, Dylan Allen aussi. Pendez-moi si on choisit Love ou From, dit Val, par contre. On peut le dire, on a eu le débat dans la rédaction. Donc, est-ce que tu penses qu'ils vont monter? Là, on n'a pas fait d'échange. Est-ce que tu penses qu'ils monteraient au premier tour pour prendre un quarterback?
Non.
D'accord.
Je l'ai lu plein de fois et je pense qu'on va. Enfin, on peut trade down ce choix, c'est possible aussi. Mais je pense que c'est possible qu'on aille chercher Fromm. Plus qu'il soit un peu dans le style de Belichick. Vraiment un gestionnaire. Il aura beaucoup de passes courtes. Il n'aura pas besoin de lui envoyer beaucoup de jeux longs et qui force son jeu. Et je pense que ouais, Fromm, ça peut être une bonne idée en deuxième tour ou début troisième, si on a de la chance.
Bon, je demandais parce que comme on avait fait un screen de la conversation et qu'on l'avait mis sur Twitter, je crois que j'avais parié que les Patriots ne se montraient pas au premier tour ou quelque chose comme ça. Et que je ne sais plus ce que j'avais parié, s'il y avait un pari capillaire là-dedans ou quelque chose comme ça. Bon, moi, je suis persuadé qu'ils ne monteront pas au premier tour non plus. Mais
ce serait très surprenant, mais après…
C'est pas dans les habitudes maison.
Non, c'est pas dans les habitudes maison. Et de toute façon, je les vois plus. On a des choses à construire. Et quand même, nos defensive backs sont très bons. On a peut-être, je pense, la meilleure escouade. Ils commencent à être âgés, notamment notre paire de safety.
Bon. Alors, les safety pour les Patriots. On va avec Victor du côté des Saints. Le choix numéro 24 a été envoyé et ça réclame pas mal. Ça réclamait. Alors, attends, un petit Justin Jefferson aux Saints, ce serait parfait. Victor fait pas le con. Eh bien, non, ce sera Kenneth Murray, linebacker pour les Saints en 24e position. Selon Victor, pourquoi un linebacker?
Alors, je regardais pas le chat, mais je me doutais que le peuple réclamait Justin Jefferson. Je suis désolé, j'ai beaucoup hésité. C'est vraiment un choix personnel. J'ai beaucoup de réserves sur Justin Jefferson. Je ne vois pas aussi beau que beaucoup de gens peuvent le voir. Et du coup, on va dire que j'ai choisi le choix qui, pour moi, était le plus rationnel. C'est Kenneth Murray, parce que j'aurais pu choisir Patrick Queen, mais la hype LSU, je m'en méfie un peu. Kenneth Murray, c'est un joueur ultra productif, très bon run stop, très bon au blitz. Il peut se perfectionner contre la passe, ça c'est sûr, mais il va apprendre dans la défense des Saints, je me fais pas trop de soucis. Et du coup, voilà, pour moi, c'est un ajout formidable à cette défense. Qui est clairement, les Saints sont là pour gagner le titre, donc on prend des joueurs qui sont prêts à contribuer dès la première année. Je peux très bien comprendre qu'on puisse choisir Jefferson, je peux très bien comprendre que certains vont m'en vouloir, mais pour moi, c'est le choix le plus rationnel.
Le choix le plus rationnel pour toi aussi, Jean-Michel?
Oui, Oui, après, c'est vrai qu'on attend beaucoup Justin Jefferson, déjà parce que c'est un joueur local, ensuite parce qu'il a fait une saison extraordinaire avec 111 réceptions, champion en titre. Mais oui, Kenneth Murray, oui, c'est un joueur qui est vraiment dans le moule des linebackers modernes, c'est-à-dire qu'il est très rapide pour aller d'un côté, pour aller à l'autre, pour chasser les coureurs. Il fera beaucoup de bien à cette défense. Et puis, il faut pas oublier que les Saints ont signé Emmanuel Sanders. Donc, quelque part, le besoin en receveur n'est pas si urgent que ça. Donc, et puis, on le dit, on le répète déjà depuis des semaines, c'est une QV de receveurs très profonde. Donc, les Saints pourront très bien ajouter un complément au deuxième, au troisième tour. Non, mais bon choix, moi, je valide.
Oui, on rappelle, hein, évidemment, nous on fait la mock du premier tour, mais il y en a six autres derrière. Hein, donc il y a des besoins qui pourront être adressés en effet plus tard. Un linebacker pour les Saints, c'est logique, je valide, dit Fidel Gastro. On y est donc pour New Orleans. Le 25e choix est pour les Vikings, c'est Grégory Richard qui s'en occupait et il a sélectionné un cornerback qui s'appelle Christian Fulton. Il y avait des besoins hein, au poste de cornerback, on en a parlé pour les Vikings. Comme ils avaient un deuxième choix pas très loin, c'est maintenant qu'il arrive. Est-ce que c'est le bon niveau ou est-ce que tu es content de l'avoir là ou est-ce que tu vas chercher un peu haut pour Christian Fulton?
Alors là, on est unanime avec Victor dans cette émission, donc c'est bien, ça me fait plaisir. Non, Christian Fulton, je l'ai un peu plus haut. Je l'ai aux alentours du 20e spot, pour être honnête.
Donc bonne affaire.
Donc c'est vrai que le récupérer au 25e, ça me paraît une bonne chose. En effet, pour compenser la perte, ou en tout cas le départ forcé de Xavier Rhodes, c'est vrai que c'est bien d'avoir ce type de receveur qui vraiment techniquement, athlétiquement est vraiment au point. C'est vrai qu'il y a encore quelques petites lacunes. Je trouve que physiquement, ça laisse un petit peu à désirer. Voilà, il y a peut-être une réactivité qui est pas toujours constante, je trouve, mais en tout cas c'est vraiment un cornerback pardon qui a un large potentiel également pour être un numéro 1. Et vu actuellement les cornerbacks qu'on a à disposition du côté de Minnesota, il me semble que, sauf erreur de ma part, c'est Mike Hughes et Holton Hill les deux titulaires. Donc il faut quand même avoir un petit peu de star power et je pense quand même que Christian Fulton, même s'il reste largement perfectible, a cette capacité.
Christian Fulton, Mehdi, c'est plutôt pas mal pour compléter un petit peu la couverture aérienne à Minnesota.
Tout à fait d'accord avec Grégory, sur tout ce qu'il a dit. Ils ont besoin de cornerback, ils sont obligés d'en prendre. Au premier tour, c'est après Fulton, ça dépend de qui peut tomber à ce niveau-là, mais ou Gladney qui peut tomber aussi, mais ouais, Fulton, c'est un bon choix.
Bon, merci Flo07 sur le chat qui dit en général, quand c'est la draft et que les Raiders n'ont plus de choix, je vais dormir, mais là, non, c'est la mock draft TDR, on n'en perd pas une miette. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 choix. On va enchaîner avec les Miami Dolphins. Miami Dolphins, pas number 1, number 3 en l'occurrence, parce que c'est leur troisième choix, le deuxième par Jean-Michel. On rappelle que dans cette mock draft, les Dolphins ont déjà choisi Justin Herbert en 5e position et Xavier McKinney en défense en 18e position. Avec le 26e choix, Jean-Michel a décidé de porter son choix sur Josh Jones, un offensive tackle en provenance de Houston. On protège l'investissement de Justin Herbert qu'on a fait en 5e.
Voilà, tout simplement. Exactement. Et puis surtout quand tu considères que les tackles offensifs titulaires des Miami Dolphins, ça va, tu es assis, c'est Julian Davenport et Jesse Davis. Donc, bon, voilà, quoi, il faut vraiment faire quelque chose. Donc, Josh Jones, en fait, il y a un gap après les quatre premiers. Lui, ce serait le cinquième, mais il a quand même joué beaucoup de matchs à l'université. Il a de l'expérience. Il est bon en protection. Il est puissant. Alors après, il n'a pas une grande envergure. Il a encore des progrès techniques à faire. Mais c'est déjà un choix solide qui, à mon avis, va contribuer dès cette année.
Josh Jones, Grégory, pour toi, il est 26e, c'est à peu près là où on devrait le voir apparaître?
Ouais, je pense. Il est entre 25 et 30, selon moi. Et encore une fois, on sait que les tackles en fin de premier tour, quand il y a des petites indécisions, en plus dans des équipes qui ont clairement des besoins dans ce domaine-là, très clairement. Je rejoins ce qu'a dit Jean-Michel. Peut-être un petit point d'interrogation, parce qu'il y a la cote d'Ezra Cleveland, le tackle de Boise, qui grimpe. Et je serais pas étonné qu'il se tire la bourre un petit peu, surtout qu'il a, lui, pour le coup, un vrai profil de tackle gauche que recherche absolument Miami. Mais Josh Jones, ouais, il y a une bonne base sur laquelle travailler. Je le disais, c'est un joueur à Houston qui a travaillé dans beaucoup de systèmes avec des quarterbacks mobiles et un peu plus pocket passeur. Donc, il peut s'adapter en fonction des situations. Et il peut avoir un volume de jeu très intéressant en NFL.
Josh Jones, donc le tackle de Houston. On passe au choix des Seattle Seahawks en 27e position. C'est Mehdi Julien qui a sélectionné. Et là, Mehdi, tu as le rôle de Pete Carroll. Tu dois créer la surprise. Et la surprise, c'est que tu as choisi logiquement, c'est-à-dire pas ce que ferait Pete Carroll normalement, puisque tu as choisi Ezra Cleveland, un tackle également. Tu as choisi de protéger Russell Wilson. Tu sais que ce n'est pas vraiment la tradition à Seattle. Tu dois t'expliquer. Pourquoi tu as choisi de protéger Russell Wilson?
Je vais déroger la règle, mais ouais, il faut de la protection à Wilson. Franchement, c'est un tel talent et on ne l'aide pas. Donc c'est malheureux. Après, j'étais parti plutôt sur Josh Jones, mais Jean-Michel l'a pris juste avant moi. Donc Cleveland, ça, il peut jouer à gauche, il peut jouer à gauche ou à droite en tackle. Et franchement, il serait bien inspiré de prendre un tackle. Donc après, il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres joueurs disponibles, mais je pense qu'il sera Cleveland. En plus, sa cote n'arrête pas de monter. S'il tombe en 27, je pense que c'est un bon choix.
Alors, vous dites beaucoup que sa cote monte. Jean-Michel, pourquoi elle monte la cote d'Ezra Cleveland en ce moment?
Ben, c'est surtout après le combine, en fait. Parce qu'il jouait dans une fac qui est connue, hein, Boise State, mais c'est pas non plus la plus réputée, c'est pas la plus suivie non plus. Il a été bon, il a de l'expérience, il a joué beaucoup de matchs, mais après le NFL combine, il a vraiment tout fracassé avec des capacités athlétiques incroyables. Et du coup, ce qui se passe, en fait, c'est que quand on combine, un joueur performe autant, tous les scouts reprennent toutes les cassettes, enfin, toutes les vidéos, et revoient le joueur. Et du coup, s'aperçoivent que, ah ouais, non, mais en fait, il est vraiment bon, ce joueur, quoi. Et c'est pour ça que sur le tard, des fois, il y a des joueurs qui voient leur cote monter. Mais effectivement, ça serait un très bon choix, un très bon tackle.
Bon, un bon tackle pour protéger Russell.
Et oui, Alain, si tu me permets, faut pas oublier aussi que du côté de Boise, il y a une petite tradition des tackles. Alors c'est pas les plus excitants au sein de la ligue, mais je pense à un Ryan Clady par exemple il y a quelques années, Charles Leno, l'actuel tackle des Bears, oui. Tout ça, c'est également des joueurs qui étaient pas très suivis du côté des Broncos et qui sont fait une place de solide titulaire à gauche. Donc c'est vrai que Cleveland peut attiser également cet intérêt dans ce registre-là.
Bon, petite déception de Raphaël Masmejean sur le chat qui disait « Oh non, on veut un running back ». Pendant ce temps-là, on attend les dernières secondes du choix des Baltimore Ravens. Pour l'instant, le choix ne m'est pas parvenu. Hein. Ça tremble dans la war room de Victor. Ça arrive. Le choix est arrivé. Je me disais, on va peut-être avoir le premier choix qui va être blanc et il va devoir passer.
Moi, j'attendais que ça. Hein.
Mais non, voilà. Le choix vient d'arriver. Vous êtes allé tellement vite. Moi, je me suis habitué à un rythme incroyable. Le choix numéro 28 de Victor pour les Baltimore Ravens, c'est César Ruiz, un lineman offensif. Encore un, ça fait 3 de suite. Il y avait besoin de protection. Il y a la retraite de Marshall Yanda. Tu penses qu'il peut prendre la suite?
Alors là, on est par contre sur un lineman offensif intérieur. Ce qui, oui. Là, pour l'instant, on était sur des tackles. Là, on est sur un joueur qui peut jouer au centre et guard. Je pense qu'il y a deux phénomènes qui sont importants ici. C'est en effet la retraite de Yanda et la grosse blessure du centre Skura qui a eu lieu, je crois, en fin de saison, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, le temps qu'il se remette aussi. On verra quand commence la saison, etc. Mais c'est vrai que comme tout le monde dans le flou, ça peut être un besoin d'avoir un joueur à ce poste-là. C'est pour moi le meilleur lineman intérieur. C'est celui qui apporte le plus de garanties. Ils ont besoin d'un joueur qui peut jouer centre ou guard. Il peut jouer centre ou guard. Je pense que sa valeur est à peu près au niveau du 28. Donc, ça me va très bien de prendre. Il peut descendre encore un petit peu, mais j'ai l'impression que les Ravens sont un effectif complet. Ils sont là pour gagner le titre. Ils ont un petit trou à combler. Ben, on prend le joueur qui comble ce trou.
On continue donc sur la série des linemen. Jean-Michel, est-ce que tu es d'accord avec César Ruiz, lui aussi au premier tour du coup?
Oui, 100%. Que ce soit au centre, parce que justement, comme il a dit, la blessure de Skura, c'est pas une petite blessure, c'est une blessure importante qu'il a eue. On ne sait pas comment il va revenir. Ou alors pour jouer au poste de garde. Donc, en plus, on parle quand même des Baltimore Ravens, une équipe qui court beaucoup. Donc, la ligne offensive, c'est vraiment une priorité. Et César Ruiz, oui, il vaut une fin de premier tour.
Bon, je vais en profiter pour me tourner vers le vilain le vilain et le méchant de film d'action, puisque il y a un message de Seb Blatter qui dit Greg tout en noir dans son fauteuil, je le vois trop en super vilain. Manquerait plus qu'il pivote avec un chat dans les bras.
J'ai pas de chat, j'en décevrai beaucoup, mais non, il y en a pas.
Voilà, je transmets. Hein. Et sinon, il y avait Jean-Michel qui se faisait taquiner aussi, puisqu'il y a quelqu'un qui disait les cassettes. Avec un petit smiley qui rigole. Donc,
Oui, mais ça, c'est les Américains qui disent les tapes.
C'est vrai qu'on traduit souvent par les vidéos sur le site en général. Mais oui, après, on ne va pas cacher.
J'ai dit les deux d'ailleurs. J'ai dit cassette et après vidéo. Mais
après, on ne va pas cacher qu'on a connu la VHS.
Oui, j'ai, voilà. j'ai connu. Oui,
non, mais, moi aussi, hein, c'est pour ça. Mais bon, voilà. Donc, on est quoi ? On est au 29e choix, les Titans. Grégory a envoyé son choix, oui. Et je vais donc vous l'annoncer, le 29e choix par les Titans, Grégory Richard. C'est Neville Gallimore, defensive lineman. On complète l'année dernière, c'est Jeffrey Simmons, si je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait, ouais.
Ils avaient drafté. Donc là, encore un lineman défensif au premier tour. Ils sont complémentaires, du coup ?
Ouais, alors je t'avoue que j'ai un peu sorti la rame parce que j'hésitais beaucoup avec Ross Blacklock, le lineman défensif de TCU, qui je pense est même encore meilleur sur le pass rush parce que là, en l'occurrence, on recherche plus un defensive end 34 pour vraiment remplacer Jarrell Casey. Après, je me dis Blacklock a eu des soucis de blessure. En plus de Jeffrey Simmons, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Neville Gallimore, c'est un peu plus l'assurance, surtout que certes, il a un profil, il a un gabarit de nose tackle, mais comme je le disais, je le trouve paradoxalement peut-être plus explosif que vraiment physique. Je trouve vraiment intéressant sur cette capacité à être vraiment, comment dire, déroutant avec ses spin moves, ses mains en activité, etc. Même si c'est un petit peu irrégulier au niveau de l'usage des mains, mais vraiment je trouve qu'il a quand même ce gros potentiel en l'occurrence à contribuer sur le pass rush, et il peut être quand même relativement complémentaire malgré son gabarit. Il peut être assez complémentaire de Jeffrey Simmons et d'Equan Jones sur le premier rideau.
Mehdi, est-ce qu'il remplace Jurel Kazé, Neville Gallimore?
Je sais pas s'il va remplacer tout de suite Jurel Kazé vu le talent du joueur, mais j'étais parti sur le même type de joueur pour les Titans, un bon defensive tackle au milieu de la ligne, ils en ont besoin. Et franchement, Gallimore, c'est un bon choix. Après, Gallimore, Blacklock, ça dépend goût et couleur encore.
Il y avait des options, donc on passe au 30e choix pour les Green Bay Packers. On attend beaucoup de receveurs hein, sur le chat. Je vois Otman Bar qui demande Jefferson. Ça parle de la chute libre de Jefferson. Patrick Quinn, c'est une bombe à retardement, dit Clément. Ça parlait aussi de Patrick Quinn au premier tour. Plusieurs ont fait remarquer qu'il n'y a pas de running back encore non plus. Qu'a fait Jean-Michel avec les Packers, le 30e choix. C'est Brandon Ayuk, un receveur. Ce n'est donc toujours pas Jefferson. Grand yeux bleus de Grégory qui se sont sur mon écran. Pourquoi Brandon Ayuk et pas Jefferson, Jean-Michel?
Ben parce qu'en fait, j'aime bien Brandon Ayuk et puis je le trouve vraiment très adapté avec ses yards après la réception. C'est-à-dire que Brandon Ayuk, son surnom, c'est Yard After King. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut là en ce moment à Aaron Rodgers avec Davante Adams sur un côté, avec un grand de l'autre, parce qu'ils ont beaucoup de grands avec Funchess, avec Lazard, avec Marquez Valdez-Scandling, avec Economus Saint-Brown. Donc, il leur faut un joueur plus vif et c'est ce qu'est Brandon Ayuk.
Grégory, tu es obligé de réagir vu la tête que tu as fait. Est-ce que tu aurais pris Jefferson?
Alors, j'aime bien Brandon Ayuk, hein, c'est pas la question. Premier tour, ça me paraît. Alors, tout dépend encore une fois si on parle d'échange ou pas échange. Si les Packers descendent et qu'ils récupèrent Ayuk au deuxième, je dirais pourquoi pas. Maintenant, c'est sûr que vu le profil, vu quand même qu'il a été assez unidimensionnel, on dira, du côté d'Arizona State, avec beaucoup de jeux sur des tracés vraiment très courts, c'est sûr qu'il va apporter la vitesse et la complémentarité dont parlait Jean-Michel. Après, voilà, à titre personnel, quitte à apporter de la vitesse et de l'explosivité dans le slot, j'aurais plus été vers Jefferson, mais ça, c'est vraiment un avis purement personnel.
Bon, il y a des questions juste sur le chat. Je réponds J-Safer qui demande si pour la draft, les choix dureront aussi 2 minutes demain. C'est 10 minutes hein, pour la vraie draft, ce qui nous laissera en direct le temps de dire beaucoup plus de bêtises. Ne vous inquiétez pas, là, c'est très rythmé, ça va bien. Alors que la vraie draft, on a plus de temps mort pour parler de nos coupes de cheveux et éventuellement des vidéocassettes qu'on a regardées ces 20 dernières années. Je précise, surtout vers 4 heures du matin quand ça commence à tirer un peu. Donc, il nous reste plus que 2 choix, messieurs. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait réagir sur Brandon Ayuk, Victor?
Oui, bah, moi, c'est sur mon board personnel, c'est le receveur numéro 4. Donc, je ne peux que être d'accord sur ce choix. Je peux comprendre que ça puisse surprendre. En effet, il est attendu plutôt en début de second tour, mais à fin de premier tour, pour moi, c'est tout à fait sa valeur. C'est un guerrier, c'est un bosseur. Il va être là sur les tracés courts, sur les tracés intermédiaires. C'est la soupape de sécurité dont a besoin Rodgers. C'est un joueur qui va le soulager et je pense que c'est le bon choix. C'est vraiment un joueur qui, selon le schéma peut être intéressant ou pas aux Packers. Pour moi, c'est vraiment un schéma idéal pour lui.
Le choix numéro 31 des San Francisco 49ers par Mehdi Julien est Ross Blacklock, défensif tackle. Est-ce qu'on est là dans une optique de remplacer DeForest Buckner qui est parti à l'intersaison chez les Colts,
Mehdi? Tout à fait. C'est vraiment l'objectif de remplacer Buckner. Il y a besoin quand même. Même s'il y a Bosa, il y a Solomon Thomas, il y a Rick Armstead, mais il y a vraiment un vrai defensive tackle en plein milieu de la ligne. Je pense que c'est vraiment un besoin et quand même, ils sont allés au Super Bowl. Donc, s'ils veulent montrer leur qualité, il faut vraiment avoir un defensive tackle solide.
Ross Blacklock, c'était un beau potentiel de mémoire, Grégory, quand on en avait parlé dans l'émission.
Oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est un joueur, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un joueur extrêmement, qui peut apporter une grosse, grosse contribution dans pas mal de domaines. Et puis, c'est vrai qu'il y a quand même une petite réputation à conserver du côté de San Francisco. Hein. Faut continuer les années avec un lineman défensif drafté au premier tour. Donc, Ross Blacklock, en effet, ça irait dans cette logique. Ouais.
Ross Blacklock, donc, est le 31e choix. On passe au tout dernier choix, celui des Chiefs, les champions en titre. Et c'est Victor qui a l'honneur de choisir. Pour le champion donc sélectionne Jalen Johnson et j'ai fait exploser le fichier Excel en mettant un gros blanc derrière. Jalen Johnson, Victor, donc cornerback pour renforcer le champion en titre.
C'est ça. Alors je fais un choix qui est un petit peu risqué. La plupart des gens auront ce joueur plutôt en milieu de second tour. C'est un cornerback agressif, physique. Dissuasif, on va dire, mais qui a peut-être tendance à prendre parfois un peu trop de risques. Donc, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut canaliser. Mais je pense que Jalen Johnson, bien coaché, bien canalisé, on parle d'un cornerback, un futur cornerback numéro 1. Donc, voilà, c'est un reach, c'est-à-dire que je prends un peu trop haut, mais le fait est que les Chiefs ont, entre guillemets, le luxe de pouvoir partir dans pas mal de directions. Le poste de cornerback, on en a besoin. Et je prends un joueur, certes, qui a pour le coup un plancher un peu bas, mais qui a un plafond très haut.
Jalen Johnson, bon pari pour toi, Jean-Michel.
Oui, oui, très bon joueur, très bon corner. Et effectivement, de toute façon, il partira à la fin de premier tour, début deuxième. Après, il y aurait peut-être eu une hésitation avec un linebacker rapide, genre Patrick Quinn. Mais,
c'était ça, ouais, c'est l'un ouais. ou l'autre.
Bon. Mais ça se tient tout à fait.
Eh bien, on termine donc, messieurs, cette mock draft du premier tour avec Jalen Johnson. Je vais rappeler vos choix. Alors, je ne vais pas redonner le nom qu'il a fait à chaque fois parce que sinon, ça va être un peu fastidieux. Mais Bengals, donc en 1, Joe Burrow. Redskins, Chase Young en 2. Isaiah Simmons pour les Lions en 3. Tristan Wirfs pour les Giants en 4. Justin Herbert pour les Dolphins en 5. Tua Tagovailoa pour les Chargers en 6. Derrick Brand pour les Panthers en 7. Jeffrey Okuda pour les Cardinals en 8. Javon Kinlaw pour les Jaguars en 9. Jedrick Wills pour les Browns en 10. Jerry Jeudy pour les Jets en 11. Tiens, je vais m'arrêter au top 10. Burrow, Young, Isaiah Simmons, Tristan Wirfs, Justin Herbert, Tua Tagovailoa, Derrick Brand, Jeffrey Okuda, Javon Kinlaw, Jedrick Wills. Est-ce que, selon vous, on a quelque chose qui ressemble au top 10 de demain? Grégory, allez, je te laisse commencer.
À peu près, oui. Je serais pas étonné qu'il y ait quand même un petit receveur qui s'incruste là-dedans, voire éventuellement un autre tackle. On sait que je pense qu'Andrew Thomas a une cote plus importante qu'on le pense. En tout cas, c'est ce qu'a l'air de ressortir et ça m'étonnerait pas. Mais oui, je pense que ça ressemblera peu ou prou à ça. Ouais.
Jean-Michel, pour toi, c'est un peu ce top 10 là?
Oui, un petit peu, mais comme dit Grégory, moi je pense qu'il y aura plus de tackles offensifs en fait. Je pense qu'ils partiront plus haut. Ouais.
D'accord, encore plus. Ouais,
je pense qu'il a mis. Pardon, je pense que pour moi, il y en a minimum 3 dans le top 10 et éventuellement 4.
D'accord. En aparté, restez sur le chat, on va prendre quelques questions. Hein. N'hésitez pas à continuer à mettre des questions. Mehdi, pareil pour toi, le top 10, celui-là, il te semble probable?
Bah, pareil, je pense qu'il y a peut-être Andrew Thomas qui va s'immiscer dans le top 10. Mickey Becton, je ne suis pas sûr avec les récentes déclarations qui ont été faites sur lui. Après, oui, franchement, je pense que c'est ce top 10-là. Bon.
Victor, même avis, top 10?
Oui, la seule exception, je vais être un peu redondant, mais c'est le choix 9 de Kino. Je pense que ça peut partir en receveur, ça peut partir en effet en offensive tackle. Donc on va dire que Kino, c'est peut-être la variable d'ajustement de ce top 10. Mais sinon, globalement, ça ressemblera à ça. Ouais.
Je vois Sylvain qui dit vous prenez beaucoup moins de joueurs de LSU que ce qu'on voit dans beaucoup de mock drafts et on en voit beaucoup trop. Je précise quand même, et que ce soit les nôtres ou celles d'ailleurs, hein, il y a quand même la plupart des mock drafts qui sont fausses. On est d'accord, une bonne mock draft, c'est quoi? C'est un tiers des bons, de choix corrects? Et encore, non?
Ouais, maximum, c'est ça. Maximum, exactement.
Un tiers, ouais, sur le premier tour, parce qu'après, quand on arrive sur les tours d'après, il y a tellement de choix possibles que ça devient quasiment impossible. Ouais. Mais juste pour LSU, je pense que c'est aussi, à chaque fois qu'une équipe domine comme ça et va gagner un titre de manière aussi flamboyante, forcément, les joueurs vont se retrouver très haut, comme Chesson, comme Quinn, et puis finalement, les gens se posent des questions, même Fulton, les gens se posent des questions, se disent, est-ce qu'il n'est pas un peu trop haut juste parce qu'il est LSU, quelle est sa valeur réelle? Donc forcément, c'est sûr que ça peut jouer.
Mais je posais la question en fait sur les mock drafts, parce qu'il faut bien situer pour ceux qui découvrent notamment et qu'on lise sur le site ou ailleurs en ce moment. C'est un outil de discussion, c'est une base de réflexion, mais c'est rarement un truc qu'on impose, et c'est très rare, encore une fois, de dépasser le tiers des choix. Je me rappelle sur les directs qu'on a fait longtemps, on était quand même souvent assez loin de faire des très gros scores. Je finis donc, après le top 10, de résumer vos choix. Jerry Jeudy en 11 pour les Jets, CeeDee Lamb en 12 pour les Raiders, Henry Ruggs en 13 pour les 49ers, Andrew Thomas en 14 pour les Buccaneers, Mekhi Becton 15 pour les Broncos, CJ Anderson 16e pour les Falcons, Kelevon Chason 17e pour les Cowboys, Xavier McKinney 18e pour les Dolphins, Yetur Gross-Matos 19e pour les Raiders, Jeff Gladney 20e pour les Jaguars, Denzel Mims 21 pour les Eagles, Jay Penessa 22 pour les Vikings, Grant Delpit 23 pour les Patriots, Kenneth Murray 24e pour les Saints, Christian Fulton 25e pour les Vikings, Josh Jones 26e pour les Dolphins, Ezra Cleveland 27e pour les Seahawks, César Ruiz 28e pour les Ravens, Neville Gallimore 29 pour les Titans, Brandon Ayuk va aux Packers en 30, Ross Blacklock va aux 49ers en 31 et Jalen Johnson ferme la marche en 32e position pour les Chiefs. Voilà messieurs pour cette première mock draft en direct de l'histoire de TDA quand même, et on touche du bois, mais aucun problème technique, on s'est tous bien entendus. Pas eu de décrochage de vidéo.
Mieux que la NFL en fait.
C'est ça. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, en tout cas, on est pas mal. On espère en tout cas l'année prochaine, la nuit prochaine, que ça va plutôt bien fonctionner. On va répondre à quelques questions, messieurs, si vous des auditeurs. Un quarterback pour les Patriots, possible selon vous, la team? Si oui, lequel? Dit Fidel Gastro. Alors là, Mehdi, tu t'étais exprimé. On va juste résumer ta pensée du moment. Tu nous avais dit plutôt From Wilson vers le deuxième tour.
Oui, ça, deuxième, troisième tour en fonction de ce qui est dispo. Après, je les vois vraiment pas prendre un quarterback au premier tour, ni monter au premier tour.
Flo07 demande aucun running back au premier tour, ni DeAndre Swift, ni J.K. Dobbins. Grégory, on avait dit pourtant dans l'émission qu'il y en avait quelques-uns qui pourraient monter. Qu'est-ce qui explique qu'il n'y en a pas?
C'est une position un peu bâtarde, encore une fois on le répète, c'est une position qui en termes de durée de vie pose un peu question. C'est une position où on se dit qu'on peut avoir éventuellement une bonne solution au troisième ou au quatrième tour. Donc est-ce que éventuellement investir un premier tour quand on sait qu'en plus et les Chiefs et les Niners qui étaient au dernier Super Bowl n'avaient pas forcément de top running back au sein de la ligue, c'est peut-être, je pense, qui peut en dissuader certains. Je pense que s'il y a un running drafté au premier tour, ce sera sûrement un trade-up d'une équipe qui sera très amoureuse et qui draftait initialement en début de deuxième tour.
Allez, je prends les questions et je les répartis au hasard sur tous nos spécialistes. On va dire que c'est autour de Jean-Michel. Quelles équipes vont monter des échanges au premier tour? Alors, on va dire qui descend, tiens.
Qui descend? Déjà, je pense au Jacksonville, c'est fort possible. Qui descend, par exemple, avec les Bucks, qui monterait pour prendre un tackle. Ensuite, un gros candidat aussi au trade-down, ce serait les 49ers, parce qu'ils ont certes deux premiers tours, mais ils n'ont plus rien après. Je veux dire, ils n'ont pas de deuxième tour, pas de troisième tour et pas de quatrième tour, je crois. Donc, c'est vraiment un candidat pour descendre, pour accumuler des pics. Et puis après, ben, y a les classiques, quoi. Je veux dire, les Patriots, les Seahawks, c'est des équipes qui, historiquement, aiment bien accumuler des choix. Donc, c'est possible aussi qu'ils descendent.
Alors, qui monte, Victor?
Les Eagles, déjà, parce que y a une tradition de monter à draft, et pour revenir un peu à ce que dit Jean-Mi, en effet, si jamais un des trois gros receveurs tombe au niveau des 49ers, je serais pas du tout étonné qu'il y ait un échange, que les Eagles montent au niveau de 49ers, justement, pour que les 49ers récupèrent un peu plus de picks. Après, je pense que là où on aura beaucoup de trade-up, c'est en effet des débuts de second tour qui vont venir en fin de premier tour. Ça peut être les Giants, ça peut être les Dolphins. Les Dolphins, de toute façon, ils ont tellement de picks qu'ils peuvent monter dès qu'ils ont un joueur dont ils sont amoureux, ils ont les capacités de monter. Donc, Miami, ça va être à surveiller à chaque pick. Et je pense que là, on est sur les principaux. Et évidemment, Bill O'Brien qui donnera Deshaun Watson contre un troisième tour et un cinquième tour. Et donc, ça permettra d'avoir des choix en plus.
Le Flow 07, le safety Antoine Winfield Jr. possible au premier tour ou pas? Est-ce que quelqu'un est suffisamment calé sur Winfield? Ça hoche la tête pour Victor qui n'a pas l'air convaincu. Dans les yeux de Jean-Michel, je lis du doute aussi.
Deuxième.
Niveau talent, moi je dirais que oui, c'est possible. Niveau talent, on fait un premier tour, mais son problème, c'est les blessures, parce qu'il a été blessé quand même deux ans. Alors pas l'année dernière, mais blessé en 2007, blessé en 2018. Donc c'est vraiment un risque. C'est pour ça que investir un choix du premier tour sur lui, j'y crois pas. Mais niveau talent, oui, il partira sans doute dans la première moitié du deuxième.
Il y a Christophe qui dit les 49ers ont déjà annoncé leur projet de descendre dans la draft. Et évidemment, c'est l'occasion pour moi de rappeler qu'il ne faut absolument pas croire tout ce que vous entendez, et encore moins quand c'est dit de manière officielle. Toutes les équipes jouent les écrans de fumée au moment où on se parle. Gange Milohan, pour vous, parmi les équipes du top 10, qui a le plus à gagner et à perdre dans cette draft? Alors déjà, je peux vous référer au site, puisqu'il y a un article qui a été publié il y a quelques heures sur justement les équipes qui ont le plus à gagner et à perdre. Est-ce qu'on est d'accord que les Dolphins, notamment avec beaucoup de choix, ça semble être une draft très importante dans l'année numéro 2 de leur reprise, Grégory?
Oui, forcément, c'est un peu une année charnière comme ça pouvait l'être pour les Raiders l'année dernière ou pour les équipes qui tentent vraiment à reconstruire par le biais d'une draft assez massive. Donc, c'est sûr que là, en l'occurrence, avec trois premiers tours, si on vient à se louper, ce sera pas sans conséquence. On se rappelle des Vikings qui avaient investi trois premiers tours il y a pas si longtemps que ça, dont notamment Teddy Bridgewater au 32e choix. Et on a vu que ça n'a pas été très concluant et qu'il y a eu une petite traversée du désert, on dira, avant le retour au premier plan, notamment par l'impulsion de la défense. Donc c'est sûr, faut pas se louper du côté de Miami, d'autant qu'il y a des choix de quarterback, il y a des choix de ligne offensive, il y a des décisions à prendre sur des postes clés. Et oui, en effet, pour Miami, il faudra clairement pas se manquer.
On termine avec une question de Simon Discret. Quel besoin voyez-vous les Steelers combler avec leur second tour? Juste pour dire un petit mot sur eux, parce que c'est vrai qu'ils n'étaient pas dans le premier tour. Si vous étiez les Steelers, qu'est-ce que vous choisissez en premier? Qui veut se lancer là-dessus? Ça vous inspire pas des masses.
pour le coup, ça peut être un des candidats à sélectionner un coureur.
D'accord, oui.
Je ne serais pas, histoire de solidifier et de diversifier peu le comité. Alors, c'est un peu dur. Quand on n'a pas de premier tour, d'investir au deuxième tour sur un coureur, c'est beaucoup de risques. Mais ça peut, si vraiment, un peu comme dans notre mock, les coureurs descendent et que il y a des vraies opportunités qui se dégagent, c'est pas inenvisageable.
Bon, et bien c'est comme ça qu'on va terminer l'épisode numéro 356 du podcast en termes de questions. Il y a Alexandre qui dit premier live, j'avais jamais vu vos têtes et il m'est trop content. Donc visiblement, il n'a pas été trop déçu de notre tête. On rappelle, l'émission du jeudi pendant l'année est en vidéo, donc on peut voir quelques trombines. Et demain, ce sera encore plus drôle parce qu'on aura des grosses cernes probablement au bout d'un moment. En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi ce live. On vous remercie aussi si vous le réécoutez en podcast, puisqu'il va être mis en ligne évidemment sur toutes les plateformes habituelles, Spotify, Apple, etc., etc., etc. Et vous pouvez le regarder à nouveau sur notre chaîne YouTube. Je vais de ce pas remercier infiniment mes camarades qui étaient avec moi dans l'ordre d'apparition sur mon écran. En haut à gauche, Mehdi Julien. Merci beaucoup, Mehdi.
Merci, Alain.
Qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la draft des Patriots? Quel est le joueur qui te ferait vraiment kiffer? Le coup de cœur, n'importe quel tour.
Ah oui. Alors, c'est une petite histoire marrante, j'en m'y sais. Ça serait Cameron Curl, le safety d'Arkansas. Parce qu'on a fait une mock draft sur Twitter avec Jean-Michel, Victor. Et en fait, son père a retweeté mon choix des Patriots. C'était au cinquième tour de mémoire. Donc voilà, ce serait Cameron Curl d'Arkansas.
D'accord. Juste en dessous de lui, Victor Roulier. Merci beaucoup, Victor. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la draft des Eagles? Qui tu veux?
Qu'est-ce qu'on me souhaite? Que Ruggs tombe et qu'on puisse trade up pour sélectionner enfin une menace profonde dont on a besoin.
Bon. Henry Ruggs, donc. Jean-Michel, en bas à droite de mon écran. Je précise, quelqu'un a dit Jean-Michel n'est pas sur le site. Alors si, Jean-Michel est sur le site. Il écrit notamment les portraits que vous avez lus, les excellents portraits que vous avez lus tout au long de l'année et énormément de fiches draft ces dernières semaines. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour ce live. Et qu'est-ce qu'on te souhaite pour la draft? Alors, tu as plusieurs équipes, toi, donc c'est un peu de la triche. Je te laisse dire qui tu veux pour quelle équipe.
Non, moi, j'ai surtout les Raiders. Après, c'est vrai que j'aime bien les Jaguars, mais c'est les Raiders, moi. Et moi, il y a vraiment un joueur que je veux absolument, moi c'est Jerry Jeudy. Jerry Jeudy, et ça y est, c'est bon, terminé, on peut arrêter là même. C'est Jerry Jeudy.
Jerry Jeudy, donc pour les Las Vegas Raiders. Grégory, merci à toi. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les Falcons?
Un défenseur.
N'importe lequel, quoi.
Il faut un corner, mais bon, si j'ai Derrick Brown à Atlanta, je serais très content, tu t'en doutes. Donc voilà, ce serait mon choix un petit peu rêvé, mais ouais, je pense que ce sera un corner en l'occurrence.
Camille Sarabène, alors je sais pas, on ne voit pas sur le retour moi que j'ai sur YouTube, mais est-ce qu'on t'entend? Est-ce que tu as le micro pas loin ou pas? Allô Cognac G, est-ce qu'on entend Camille Sarabène?
On devrait m'entendre. Oui.
On t'entend, Camille, merci.
Là, on devrait m'entendre.
Ouais, nickel. Merci beaucoup, Camille, pour la technique. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la draft des Seahawks?
J'ai vu passer plus des mock drafts avec Yetur Gromatos, mais j'ai peur qu'il soit parti avant, mais pourquoi pas.
Bon, ce serait pas mal en effet. Yetur Gromatos, vous auriez le nom le plus cool de la draft, ce serait déjà en soi une victoire. En fait, Flo07 me dit que Jean-Michel n'est pas cité quand on clique dans la rubrique l'équipe TDA. Alors ça, en effet, c'est possiblement ma très grande faute parce que je ne la mets pas à jour très souvent. Donc il va falloir que je mette ça à jour proprement pendant l'intersaison, d'autant qu'on a recruté 4 personnes encore ces derniers jours. Et je suis encore en train de traiter, je remercie tous ceux qui ont postulé parce que je suis encore en train de traiter des demandes, des tests, etc. On va finir tout ça après la draft, mais on a déjà recruté 4 personnes et on les remercie évidemment. Ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui viennent aider. Eh bien, écoutez, merci messieurs, c'est comme ça que se termine l'épisode 356. Je l'ai dit, je vais faire quelques petits rappels quand même très importants avant de terminer. Premier rappel, c'est que la draft NFL, c'est donc dans la nuit de jeudi à vendredi à partir de 2h. On sera en direct à nouveau sur cette chaîne YouTube pour les 10 premiers choix en direct. Dans le même temps, alors quelqu'un demandait, Kevin Zermatten n'est pas là ce soir, c'était vraiment une question de planning hein, qui fait qu'il n'est pas là, il sera là demain, on sera avec Grégory, Kevin et moi-même pour le direct. Il y a beaucoup de monde en fait qui va faire beaucoup de choses. Victor sera sur le résumé choix par choix, Mehdi sera en renfort sur le site, Jean-Michel a fait le résumé choix par choix l'an dernier qui est un boulot énorme hein. Il faut quand même être très très réactif, donc merci beaucoup Jean-Michel, et qui sera aussi lui plus tranquille, on le laisse se reposer demain, mais il l'a bien mérité. Camille sera avec nous à la technique. Donc voilà, tout le monde va avoir des rôles. Après, on ne s'exclut pas. C'est une configuration assez souple, hein, Zoom, pour ceux qui connaissent du coup. Donc peut-être que s'il y a un truc qui se passe, on pourra peut-être essayer de faire venir quelqu'un dans la converse vite fait. Mais la base, en tout cas, ce sera avec Kevin et Grégory, que vous avez entendu dans les dernières émissions. Et encore une fois, l'occasion pour moi de remercier toute l'équipe du site, hein, Sébastien Polomeni aussi, qui a fait énormément de fiches. Mmh. J'oublie quelqu'un sur les fiches, Grégory, toi qui as chapeauté tout ça. Jean-Michel est là, Mehdi est là, Victor est là, Sébastien a fait des fiches aussi, Kevin a fait des fiches aussi, on le remercie. Toi-même, je crois qu'on a c'est à peu tout. Près
tout on est bon,
pour les fiches, c'est déjà pour énorme.
Les fiches, c'est bon, ouais.
C'est déjà énorme, faut pas. On a plus de monde sur la NCA maintenant qu'on en avait à une époque.
Ah, mais on s'incruse petit à petit, Alain. Prépare-toi à lancer un site de college football très bientôt.
On va pas embêter Morgan.
Ah oui, c'est vrai, faut pas faire les plate-bandes. Faut pas marcher sur les plate-bandes de Morgan, pardon.
Quand même, oui, on va pas embêter Morgan. Non, et puis il fait du très bon boulot et nous on en a déjà bien assez sur la NFL et on a beaucoup de choses à faire. Donc encore une fois, merci à tous. Je le disais donc, 2h du matin, le direct. Il y aura un podcast de débrief le lendemain dans l'après-midi ou en fin d'après-midi comme d'habitude, donc le vendredi soir. Derrière, le deuxième tour et le troisième tour auront lieu dans la nuit de vendredi à samedi à 1h du matin. Là, il n'y aura pas de direct, mais il y aura encore les choix qui seront mis sur le site et il y aura plein de choses. Et le dernier, les 4, 5, 6 et 7e tour auront lieu le samedi à partir de 18h. Là encore, les résumés des tours seront mis en ligne sur le site. Pardon, je m'y perds. Et il y aura un podcast de débrief le lundi ou le mardi suivant. Donc, vous aurez tout ce qu'il faut sur la draft. Voilà, on espère en tout cas que ça vous plaît, ce programme très élargi. On a fait 3 émissions par semaine avant cette draft, confinement oblige. On espère qu'on vous aide à tenir le coup. Restez chez vous et en tout cas, profitez-en bien et puis profitez du coup de cette nuit blanche. Pour une fois, on est à la maison. Vous êtes éclaté en télétravail le lendemain en pyjama, au moins vous êtes un peu plus tranquille que si vous devez aller au boulot. Donc, c'est un peu plus gérable. Messieurs, je vous remercie encore une fois. Je rappelle à tout le monde que pour nous suivre sur Twitter, c'est @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchJeanActu. Les réseaux sociaux, tiens, je vais vous laisser faire votre promo Twitter si vous le voulez, c'est le moment. @Thielo Radio, ça pour Greg. @Victor Roulier, si je ne dis pas de bêtises pour Victor. @Mehdi Julien, ou il y a un underscore quelque part?
Il y a un underscore entre le Mehdi et le Julien.
Voilà. @Camille Sarabène en entier. Jean-Michel, Twitter, toi?
Zappa 13009.
Voilà, c'est Zapata 1309. Pour Jean-Michel, ceux qui sont dans les commentaires du site connaissent bien Zapata 1309. Merci en tout cas à tous les trois. On rappelle à tout le monde que l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Toute la couverture de la draft, c'est sur tdactu.com. Et le direct, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi à partir de 2h du matin. Merci beaucoup à tous. Générique, Camille. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Bonne draft à tous.
Bonne draft.
Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rodgers, Global Beckham, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin, on compte les points et on finit en requin.